Ah, mais je suis tellement en retard. Excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, je vous remets un morceau 2 minutes parce que je suis en train de préparer un joli petit visuel pour vous. Attendez, attendez, désolé. Je me dépêche, je me dépêche. J'en ai pour 2 minutes, mais 2 minutes. À tout de suite.
I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light. Cutting darkness out. I'm alright again, like a child again. Now the universe is a wonder. I don't care where we go, don't care what we do, as long as you're with me and I'm with you. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer. Just as long as I'm right there beside you, I won't ever let go, I won't ever be cruel, like the world was to me before I found you. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining.
Jusqu'au bout. Allô les amis. Jusqu'au bout. Amis TikTok, vous nous rejoignez seulement l'instant. Amis Twitch, vous avez le droit à 2 morceaux de musique ce matin. Parce qu'en fait, j'avais oublié de télécharger un visuel sur mon PC. Petite 8-6 à 10h du matin. Non, c'est pas la 8-6, c'est un coca zéro. Un petit visuel sympa. Le visuel d'annonce du stream exceptionnel de mardi prochain, 20h sur Twitch. Mon plus beau stream de la rentrée. Et ça y est, le visuel, il est prêt en fait. Avec des invités, avec du public, avec une mécanique de jeu incroyable. C'est un jeu, il s'appelle le bingo. Et ça y est, j'ai le PC, j'ai le visuel sur mon PC. Du coup, je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Waouh, il est beau! Ah, il est beau! Ok. Et du coup, j'ai relancé une musique. Donc, amis TikTok, on ne pourra pas le voir sur TikTok, ça, mais on vous donne rendez-vous sur Twitch mardi 20h. Puis, amis de Twitch, bah, je vous donne rendez-vous mardi à 20h. Enfin, il y aura plein d'autres streams d'ici là. Il y a un samplay avec Cyprien dimanche aussi, qui va être exceptionnel. Le 4e samplay de la rentrée. Hein, mon émission où je découvre un nouveau jeu vidéo chaque dimanche soir avec un invité. Et on en est au début de la 3e saison, on en est à plus de 60 émissions, 60 jeux. La 4e émission de la saison 3, c'est avec Cyprien, sur un jeu qui a eu beaucoup de succès il y a quelques temps, qui s'appelait Balatro. Jeu de cartes, Voilà. C'est marrant parce que j'ai eu plein de réactions très positives sur le post du jeu, en disant oh, tu vas avoir meilleur jeu. Alors que Joe, mon ami, qui réalisera l'émission dimanche, lui, il n'est pas du tout hypé par le jeu. Alors que moi, le baladrogue, comme dit Sunday, exactement, c'est un jeu très addictif. Alors que. Mais pourquoi tout le monde l'appelle le baltrou, ce jeu? C'est le balatro. Pourquoi? Oui, mais pourquoi il y a plein de gens qui le rebaptisent balatrou? J'ai pas la rêve de la blague. C'est sur un commentaire sur deux sur les réseaux, c'est ah ouais, balatrou. Baltrou plutôt. Oui, jeu de mots, mais. Mais jeu de mots. C'est juste le jeu de mots de genre maternelle, quoi. Ok. Ok, mignon. Oui, non, mais je l'ai. Baltrou, trou de balle, c'est du verlan. Ouais, mais je me suis dit, c'est plus fin que ça, tu vois. C'est plus malin, c'est plus. C'est littéralement un commentaire sur deux, quoi. Pourtant, je suis bon public. Hein. Et en fait, non, c'est juste ça, en fait. Ouais, ok. Je pensais que c'était plus. Ok, mais genre, on juge pas l'humour. On juge pas. Est-ce que j'irai au GP? Non. Non, par contre, on va en parler. On a un article dans Le Figaro, je crois, sur l'aspect annonceur, sponsor, publicitaire du GP. Ouais. Tu joues au PSG? Non. Non, alors ça, moi, le foot, ça fait 11. Dernièrement, vous savez, quand on est petit, ça joue au foot à l'école, t'as les capitaines qui font les équipes, là. Et toi, je te prends toi, je te prends toi. Puis il y a toujours. Puis il y a celui qu'on prend en dernier. Alors, j'étais toujours dans les 2-3 derniers, là. Ouais. Non, j'étais pas du tout hypé par le foot. Ouais. Bah, tu rigoles, Lilou, mais c'est un. Bah, vous marrez, mais c'est un souvenir. Hein. Alors, pas douloureux, parce qu'en vrai, je m'en foutais un peu. J'avais plein d'amis, on faisait d'autres trucs, quoi. Mais pas le foot. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait beaucoup d'escrime jeune. J'ai fait un peu d'arts martiaux un peu plus âgés, du Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien. J'ai fait surtout beaucoup de course à pied et de triathlon plus tard, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, vous allez bien, vous? Team choisi en dernier et les gens demandaient s'ils pouvaient faire sans moi pour tous les sports. Oh, pff, en bois, c'est dur, ça. Salut Samuel, je tente ma chance, ma soeur Romane aura 18 ans le mois prochain. C'est trop mignon ça. Elle t'adore, tu l'as beaucoup aidé à développer son esprit critique, ok. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui passer un petit message? Merci par avance. Barbie Doulea, bien sûr. Ok. Et donc Barbie Doulea, tu es la soeur ou le frère du coup? Attends, juste précise-moi si tu es la soeur ou le frère pour que je fasse le message parfait pour Romane. Barbie, je me dis peut-être soeur, mais on prend le pseudo qu'on veut en vrai. Barbie, tu peux me dire? Barbie Doulea, si tu. La sœur, incroyable. Donc c'est Roman, 18 ans. Attends. C'est Roman, hein. Où est-ce que tu es? Ah, oh, j'ai pas dit ton message. Ouais, Roman. Ok, prêt. Tu lis les messages TikTok ou Twitter? Bah, les deux. C'est mon super pouvoir. Je fais tout mal sauf un truc, je sais lire très vite. Ouais. 3. 4. Bonjour Roman, c'est Samuel Etienne. J'apprends par votre sœur, qui est dans mon chat actuellement sur Twitch, que c'est votre anniversaire, 18 ans, profitez, quel bel âge. Et donc, je voulais vous souhaiter le plus doux, le plus lumineux, le plus joyeux anniversaire. J'espère que vous allez dignement fêter ça avec ceux que vous aimez. C'est cool d'avoir une sœur qui pense à vous comme ça. Roman, bon anniversaire. In, out, tu coupes, tu mets, bim, bam, anniversaire, let's go. Voilà. Et il y a plein de joyeux anniversaires dans le chat, c'est trop mignon. Une seule prise, ouais. Oui, j'ai dormi. Enfin, j'ai voulu. Oh, alors, hier soir, j'ai pas streamé, je m'en excuse. Hein. Hier matin, revue de presse. Hier après-midi, j'avais un tournage de vidéo. Pardon, dans le cadre de MVP. Hier, en fin de journée, j'avais une projo ciné de Kaamelott. Alors, si j'ai bien compris, Kaamelott 2, le film. Mais seulement les 33 premières minutes, je crois. Je sais pas pourquoi. Dans une salle de projection privée. Pourquoi? Parce que je reçois Alexandre Astier mercredi prochain dans MVP. J'ai vu Kaamelott 2, ouais. Ouais. Ouais, mais pas tout. 33 minutes. Ils montrent pas tout. Ouais. Et donc, je reçois Alexandre Astier mercredi prochain dans MVP. Donc mon émission qui est deux fois par mois le mercredi, Ma vie pro, qui explore les voies professionnelles pour chacun trouve sa voie pro, son métier, son secteur d'activité, qu'il soit jeune ou plus âgé s'il veut changer de filière, des chroniqueurs, des invités, ça rigole. J'adore cette émission. Et donc Alexandre Astier vient d'en témoigner de son parcours à lui. Donc on a eu une première partie d'émission pendant 2h30, non 1h30, 1h45 où avec des invités, avec des chroniqueurs, on explore différents métiers, différentes questions aussi. Par exemple, là, on partira d'un sondage. Il y aura, je lis qu'un, on y va, il y aura Ludovic B, il y aura Ludo qui est là à chaque émission avec moi, qui est spécialiste des métiers, qui est super sympa, qui a une chaîne YouTube sur les métiers. Il y aura Marie Palot qu'on adore, qui sera là. Il y aura Ben Nevers que j'adore, qui est un YouTuber que j'adore. Donc là, c'est l'équipe de chroniqueurs avec qui on va discuter. Et puis il y a plein d'invités, il y a au moins 3-4 invités pour parler de métiers. Une des questions qu'on se posera, c'est à partir d'un sondage qui montre que bah, aujourd'hui, il y a plein de Français qui disent, mais moi, je veux pas de responsabilité, en fait. Je veux pas plus de responsabilité dans mon taf. Hein? Je suis bien comme ça. La vie, c'est pas que le boulot. Donc, on aura une émission notamment sur cette question-là, mais pas seulement. Et puis, juste après ça, on aura Alexandre Astier vers. Alors, l'émission commence à 10h, vers midi. Vers midi, enfin, 11h45, pour 1 heure. Voilà. En gros, l'émission est de 10h à 13h, quoi. Et avant, je vous fais une revue de presse, mais express. 9h-10h. 9h-10h. Et ouais, point d'exclamation MVP dans le chat, ouais. Exactement. Dans le chat Twitch. Et puis, et du coup, comme je fais une revue de presse express le mercredi matin, deux fois par mois, j'en refais une l'après-midi, plus complète. Voilà, ça stream, ça stream. Tout ça pour vous dire qu'hier soir, donc j'ai pas streamé parce que j'étais crevé. Et donc, je suis allé au lit à 20h30. Waouh! Je suis allé au lit à 20h30! Hier soir. Ouais, avec les enfants, avec mon amoureuse. Ouais. Pour dormir. Alors c'est une bonne opération parce que j'ai réussi à m'endormir à 1h du mat. Merci Martouf pour le soutien. Merci Tip Kito. Non. Tip Kito 4. Type Kitoa peut-être. Merci. Merci Tortue à chaise. Merci Lolo de Bixel pour le 48e mois, nom de Dieu. 48e mois. Faut que je fasse peut-être un. J'ai pas fait de badge pour les 4 ans et demi et hors 50 mois d'abonnement, ça fait 4 ans et demi. Hein. Captain Wii, merci pour le 50e mois. Voilà. Alors, où j'ai la flemme et je fais un badge pour les 6 ans. Donc, attends. Non, 5 ans. Donc ça fait 60 mois, peut-être. Hein. Sugar me dit peut-être faire tous les ans maintenant. Merci les Lémuriens obèses pour le 41e mois. Putain, il y en a que l'ancienneté de fou. Merci beaucoup Kyolin pour le 14e, le 12e mois. Splax again, merci aussi pour le soutien. Et donc, je suis allé au lit à 20h30 et je me suis endormi à 1h du matin. Oh, de rien, Euskalien. Merci encore ton passage dans l'école de mon fils, les Frey, au Grand Rex. C'était bien cool. Je connais bien les Frey, j'ai un copain qui a fait cette école d'ingénieur il y a très longtemps. Et donc, ouais, échec, ouais. Je me suis mis à 20h30 au lit. J'ai pas réussi à dormir. Voilà. Je me suis dit, je vais pas streamer du Valo, je vais aller dormir. Et donc, je me suis fait un film, le film dont on parlait hier, Civil War, avec Kirsten Dunst. Vous savez, sur la guerre civile aux États-Unis, là, c'est de la fiction, quoi. Mais comme on parle beaucoup des tensions, de la polarisation de la société américaine, bah hier, les gens m'ont dit, bah, tiens, tu devrais voir ce film Civil War. Et effectivement, bah, alors ce qui est. Certains m'avaient prévenu, hein, c'est pas une réflexion sur ce qui a mené à la guerre civile aux États-Unis dans le film. Or, c'est ça qui est intéressant. C'est comment, à un moment, un peuple peut en arriver à se déchirer tellement que c'est une guerre interne, une guerre civile. Ce qui nous fait réfléchir au propos de Trump, qui, on l'a lu hier, hein, on en parlait, estime qu'il y a une guerre intérieure aux États-Unis à mener. Pardon, hein, mais là, on n'est pas dans la fiction, quoi. Et donc, ce n'est pas un film sur ça, c'est un film sur la guerre est là, et c'est plus une réflexion sur le journalisme, finalement. Hein, avec cette photo-reporter, Kirsten Dunst, accompagnée par ce qu'on appelle notre jargon un fixeur, finalement, tu vois, qui l'accompagne. Et puis, cette jeune photographe qui se greffe au duo, quoi, plus le journaliste plus âgé, là. Donc, c'est plus une réflexion finalement, sur les médias, sur le journalisme. Qu'une réflexion sur la guerre civile. Donc, ok. Bon, après, quand on est fan de Kirsten Dunst comme moi, ça se regarde, quoi. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, type dit Civil War, nous le vendait comme un film de guerre civile, et au final, c'est un film sur les reporters de terrain, ouais. Tout, complètement d'accord. Ouais. Bon, pardon, je discute un petit peu avec vous, c'est mon plaisir. En plus, j'ai une journée de chill aujourd'hui. J'ai eu 15 jours très chargés, là, en termes de taf, et aujourd'hui, j'ai vous, j'ai un petit Teams à 12h30, 12h45, et après, je vais restreamer cet après-midi du gaming. Je sais pas si je pars sur le Call of Duty Black Ops 7. En bêta, dont je viens d'avoir une clé. Je sais pas si je fais un Valo, mon petit plaisir, et je sais pas si. Ou alors si je fais pas un. Parce que bientôt il y a le 7 qui va sortir. Non, le 6. Et j'aurais bien au 5 avant. Qu'est-ce qui va sortir là bientôt? Gros jeu là qui arrive. Ouais, Battlefield, ouais. C'est le 6 qui sort, hein, c'est ça? Bientôt. Et donc je lancerai bien un BF5. Voilà, donc j'hésite entre les trois. Valo, Black Ops 7, Battlefield 5. Je sais pas ce que. Vous avez une préférence? Ah, BF5, c'est pas le dernier? C'est BF 2042 le dernier? Alors, attendez, moi j'ai jamais joué à Battlefield. En fait, ma question, c'est lequel vous me conseillez? En attendant le 6. En fait, c'est ça ma question. Le mieux. BF1, le 5. Valo 100%, me dit Alexandra. Le meilleur BF4, BF1, BF4. Oh, vous êtes vachement nombreux à me dire BF1 en vrai. Ah bon? 2042, c'est que du multi, nul et brouillon. Ok, on l'élimine. Donc ça se joue entre le 1 et le 4. BF1, c'est pas le premier? C'est incroyable. BF1, BFM TV. Non. BF1, très bien, le 5 plus casu. Peut-être BF1 alors. Mais est-ce qu'il voit nos messages? Peut-être qu'il est que connecté à Twitch. Emma, je te lis tellement, Emma, je te lis. Je lis tous les chats, je lis tous les messages. Ok. Prends 5, tu seras pas largué pour le suivant. Ah! Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je vais jouer au 6. On va voir que je peux jouer le 1 et le 5. Hein. Il y a un mode histoire là-dedans? Il y a un mode histoire? Il y a un mode histoire là-dedans? Il y a un mode histoire? Bah, il y a un monde où je peux faire le 1 et puis le 5. Hein. Attends, je me le note. Ce serait mieux un simplay sur BF. Ouais, mais vous savez, les jeux que je choisis dans simplay, c'est les invités qui me les proposent. C'est pas moi qui les décide. J'aime bien cette idée. Sam. BF, c'est surtout un jeu multi, on s'en fout de l'histoire. Ok. J'aime bien les stories, moi. Hades, personne ne me l'a proposé encore. Attends, donc BF1, BF1, BF1 ou BF5. Voilà, mais pas BFM, hein. On est d'accord? BF5. Bon. Bon, bah cet après-midi, ce sera sûrement ça. Ah, ou Black Ops! Zera, Zera pour Hades, ce sera bien, ouais. Ok. Bon, super. L'histoire, c'est important, sérieux, arrêtez avec vos multi en permanence. Mais ah, bien sûr, Tom, t'as raison, bah voilà, bah, merci Tom. Ouais, Megabonk, j'ai vu que ça streamait sur Megabonk en ce moment. Non, 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 mais là, moi, j'aime tirer sur des gens. Moi. En général, Wallet, mais en général, ça commence à quelle heure, vu de près, je sais jamais à quelle heure venir. Bah, souvent, moi, je mets un petit message dans le chat le matin pour dire. En général, c'est entre 9h, quoi. C'est entre 9h et. La phrase qui veut rien dire. C'est entre 9h. Non, en fait, c'est tous les matins du lundi au vendredi. C'est tous les matins du lundi au vendredi. Avant, c'était le plus souvent possible. Maintenant, c'est tous les matins. Le jour où je peux pas le matin, ben c'est l'après-midi. Enfin, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et en gros, c'est l'idéal, c'est 9h midi. Mais je fais souvent 9h30, 12h30. Voilà, en gros. Et vraiment, quand je suis à la bourre, 10h, 13h. L'idée, c'est de faire 3h, quoi. Voilà. Ben, j'aime tirer sur des gens, ouais. C'est vrai. Cette phrase est bizarre. J'espère qu'elle sera pas reprise en contexte. Hors contexte, quand je me présenterai à la présidentielle. Et quand des opposants politiques, notamment juste avant le second tour, iront chercher ce genre de phrases. En les sortant hors contexte. Mais ce gars, il aime tirer sur les gens. Ouais, tu vois. Merci GG Blues. Merci Arfroxis. Merci Blondour. Merci Snupi54. Merci Squall. Merci Waria, vous êtes incroyable. Merci Martouf. Mais c'est quoi tous ces subs? Merci beaucoup. Merci Asiba. Merci Yanouf. Merci Jano. Hello Samuel, on fait comment pour avoir une alternative aux extrêmes pour les prochaines élections? On en reparlera. Hello Samuel, j'avais complètement raté la chaîne MVP que je découvre en ce moment et c'est top comme projet. Tu vas vraiment prendre ton pied dans l'émission. Alors je suis très heureux, très fier. Moi je voudrais faire la pub un peu d'MVP, cette émission qui commence sa deuxième saison là. MVP, ma vie pro. Ma vie pro, ma vie professionnelle. Vous êtes collégien, lycéen, vous êtes étudiant, vous ne savez pas quoi faire plus tard, ou vous vous interrogez, ce qui est bien normal. Quel métier, quel secteur d'activité, quelles études, quel parcours. Voilà, on répond à ces questions-là, deux fois par mois, une belle émission. Sujet sérieux, mais ton bien chill. Merci Rosling, ça fait plaisir. En plus, deuxième saison, nouvelle formule. Là, on est un peu plus détendu, on n'est plus autour d'une table, on est sur un grand canapé. Voilà, l'équipe est topissime. Voilà, à chaque fois, il y a trois chroniqueurs, trois, quatre invités, plus un invité principal MVP. Et à chaque fois, il y a un thème, il y a des chroniques, il y a des petits jeux. L'idée, c'est de parler de tous ces sujets un petit peu anxiogènes parfois, mais de façon un petit peu détendue, quoi. Mais en étant rigoureux sur les infos qu'on donne, bien sûr. Et en fait, plus je fais cette émission et plus je l'aime. Et en plus, la deuxième formule, là, elle est vraiment sympa. Et puis les audiences sont vraiment sympas, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a vraiment peut-être trouvé un truc. Et voilà. Donc c'est sur Twitch, sur ma chaîne, deux fois par mois, le mercredi, 10h-13h. Replay sur YouTube, mais la chaîne MVP. Puis des petits extraits sur les réseaux, quoi. Voilà. Coucou, est-ce que tu penses qu'on peut être de gauche et patriote en même temps? Bien sûr.
Bien sûr.
Salut, je te suis pas trop, mais j'arrive pas à savoir si c'est du second degré ta candidature à la présidentielle. Tom Thompson me demande si le canapé c'est une inspiration de quoi? Du podcast Canapé 6 places de Léna Situation. Oui. Alors je suis pas. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée du canapé. Je suis un peu gêné. Mais d'après les informations dont je dispose, je crois qu'on n'avait jamais vu de canapé dans une émission avant, de télé ou sur Internet. Enfin d'après, si je réfléchis, c'est vrai que maintenant que tu me. Moi j'ai jamais vu. L'émission dont tu parles, là. Mais maintenant que j'y songe, je crois qu'effectivement, personne n'avait jamais utilisé un canapé avant dans une émission de télé ou d'Internet. Donc, maintenant que tu me le dis, j'y ai pas pensé, mais sans doute, ouais. Trop déçu, du coup. C'était une vanne. Hein. C'était une vanne. Oui, effectivement, des canapés dans les émissions de télé, ça existe depuis... je pense qu'on a inventé la télé. Je précise parce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment pris au premier degré, quoi. Catherine me dit si, Divan et Marc-Olivier Fogiel, c'était une vanne. Il y a des canapés dans des émissions, il y en a depuis la nuit des temps. Hein. Et dans les premières chaînes du temps des hommes préhistoriques, il y avait déjà des canapés. Hein. Mais en pierre. En pierre. Je précise parce que j'aime bien raconter des bêtises et troller à mort, mais je vois qu'il y a des gens qui ont pris cette info très au sérieux. Non, évidemment que cette idée de canapé n'est pas venue de. Je ne sais plus de quelle émission on parlait. Je me régale. Je vis ma meilleure vie avec vous, vous êtes formidable. Bon, j'aime bien ce petit bonjour là. On s'est parlé de nos actus. Et on se retrouve tout à l'heure pour du gaming. Et puis ce soir, ah oui, je vous ai pas dit, ce soir du gaming, c'est triple stream aujourd'hui. Hein. Revue de presse ce matin, gaming cet après-midi. Donc peut-être du Battlefield. Gaming ce soir, peut-être du Valo, je sais pas. Et puis demain soir, il y aura du gaming, samedi dans la journée. Et puis dimanche soir, ça me plaît. Je vous montre peut-être le... Attendez, je vais vous montrer le... Je vais vous montrer les visuels dont je vous ai parlé. Alors attends, elle est où, Léa? Léa. Balatro, balatro. Hop. Ok, c'est parti. Alors, je vous montre d'abord le visuel de Balatro. Donc, le sample Balatro. Alors, attends, je vais vous mettre ça où, moi? Annonce, c'est quoi ça? Annonce, ouais, très bien. Parcourir. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tinin. Ah ouais, mais du coup, vous l'avez pas sur TikTok. Comment je peux vous montrer ça, moi? Ah, faut que je rajoute une source. Attendez, source. Je peux le faire en live? Oh, je peux le faire en live. Image. Hop, 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 il y a un monde où... Je peux vous le montrer sur TikTok. Bureau. Balatro. Pas Baltrou, comme disaient certains tout à l'heure. Oh, je suis un génie de l'informatique. Je suis un... Est-ce que... TikTok, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez, vous aussi? Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Vous l'avez? Ben voilà. Donc ça, c'est le Samplay, mon émission sur le jeu vidéo dimanche soir, de dimanche. Toujours la même photo? Pas du tout. Pas du tout, c'est Cyprien. La semaine dernière, c'était Trinity. C'est pas du tout la même photo. Ah, ma photo! Ah oui, c'est la même depuis 15 ans, ouais. Oh, j'ai pas changé. J'ai littéralement pas changé, c'est le même. Ouais. C'est la même photo depuis 15 ans, même 17 ans, je pense, en vrai. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pas changé, j'ai pas pris une ride, j'ai pas perdu un cheveu. Donc, je vois pas l'intérêt de changer la photo. À Webedia, mes amis de Webedia avec qui je travaille beaucoup m'ont dit « Tu voudrais pas faire des nouvelles photos ?» Bah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette photo? Dans 20-30 ans, j'aurai la même tête, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est dimanche, c'est Samplay, avec Cyprien, Balatro, je pense qu'on va bien rigoler, 20h sur Twitch, ok? Voilà, c'est ça. Tchic. Et vous savez quoi, je vais vous montrer aussi... Voilà. Alors certains me demandent si l'émission est sur canapé. Oui, l'émission est littéralement depuis plus de 2 ans sur canapé. Samplay sur canapé. Et je vais vous faire une annonce incroyable. Cette idée du canapé, vous savez où je l'ai eue? Est-ce que vous savez où j'ai eu cette idée du canapé? De faire une émission sur canapé? Eh ben, c'est une... j'ai oublié le nom, mais c'est une émission de Léna Situation. Ouais. Parce que je crois que c'est la première à avoir utilisé un canapé. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, mais Samplay, ça existait peut-être... Ça existait avant l'émission de Léna. Ah ouais. Oui, mais j'en avais entendu parler. Voilà. J'en avais entendu parler et je savais qu'elle avait ce projet. C'est comme ça que ça m'a donné l'idée. Donc j'ai eu l'idée avant elle, mais quelque part je me suis inspiré d'elle. Donc voilà, pour que ce soit tout à fait précis. Voilà. Ouais. À moi, c'est canapé de place. Je me suis inspiré du futur. Ouais. Voilà. Et puis ça, donc, je vous ai dit, ça, c'est. Dimanche soir, mais le plus fort. Hein. Mon plus gros stream de la rentrée, il est mardi prochain. Et là, je vous montre le visuel que personne n'a jamais vu. Je vous ai jamais montré. Tintintin, TikTok, je vous le mets aussi parce que je vous aime fort. Parcourir. Je suis un monstre. Je suis un monstre de technologie, moi. Appliquer. Je vous le mets. Regardez, c'est ça. Incroyable. Le bingo! Le bingo! Regardez ça. Voilà. Je ne l'ai pas posté sur les réseaux, je ne l'ai mis nulle part, c'est que pour vous. Regardez comme c'est beau, mais mate cette émission, quoi! Voilà, donc on a ma photo depuis 17 ans la même, là, comme d'habitude. Ouais. Oh putain! On a Elidia, on a DFG. On a Jiraya, donc il y a littéralement tous les styles capillaires. Hein. Moi, je pense qu'il faut, il y a pas de discrimination dans cette émission. Il y a ceux qui ont un peu de cheveux, ceux qui ont beaucoup de cheveux, ceux qui ont plus de cheveux. Alors, je pense que je commencerai. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a bugué. Oh, ça a eu. J'ai un petit bug d'internet à l'instant. Vous aussi, vous avez été embêté ou pas? Ça a duré une microseconde. Non, ça va? Vous avez eu un bug ou pas? Non? Pas sur Twitch? Ça a coupé sur TikTok, ouais. C'est revenu ou pas? Vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, levez les bras en l'air et faites ouais, ouais, wave the air, ouais, let's go, tout ça. Ouais, c'est ok, ça marche, ok. Ça, c'est encore à cause de Vladimir Poutine, ça. Ça, on en parlera ce matin. Et donc voilà. Donc je pense que je ferai la vanne mardi soir hein, en disant ce stream, vraiment, c'est un stream qui accueille toutes les pilosités, quoi. Voilà. Donc vous verrez mardi, vous penserez à ce qu'on s'est dit ce matin. Donc, Gigi, Jiraya, DFG et Lydia, un nouveau jeu. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ce jeu, le bingo. C'est un jeu unitaire, c'est un jeu exceptionnel, on le fera qu'une fois. Voilà. Donc avec ces trois invités, avec du public. Il y aura plus d'une cinquantaine de personnes. On a lancé des invitations sur Internet il y a quelques jours. De la commu. 50 personnes, en fait, un peu plus en vrai, qui seront dans un cinéma parisien. Voilà. Donc ce sera en live, en public. Et puis une mécanique de jeu qui part du bingo. Le bingo, c'est l'histoire de boules. Hein. Il y a plein de boules, on tire des boules. Voilà. Et puis ça donne des numéros, sauf que là, les numéros, évidemment, vous nous donnez des questions, vous nous donnez des jeux, ça va rigoler, quoi. Voilà. Et donc, c'est une super. Et c'est en partenariat avec Célio, qui a une histoire, juste. Enfin, je vous raconterai ça autour des essentiels. Voilà. Et en fait, le bingo, ça vient de là, mais je vous expliquerai. Parce qu'en fait, Célio, ils sont dans un truc qui s'appelle le bingo des essentiels. Voilà. Des histoires de boules, ouais, exactement, ouais. Voilà. Et donc, c'est grâce à eux que je peux faire ce bel événement, parce que bon, il y a une salle, il y a une grosse prod, il y aura une grosse prod, il y a du public, voilà, on a dû inventer une mécanique de jeu, on a dû écrire plein de questions et tout. Donc c'est pour ça, c'est littéralement mon plus gros projet de la rentrée, vraiment. Donc c'est pour ça, venez mardi prochain à 20h, parce que on se décarcasse depuis des mois sur ce truc, hein, c'est plusieurs mois de travail. Avec Joe, avec Lou, qui est l'auteur de la mécanique et des questions, avec toute une petite équipe, quoi, avec Léa, bien sûr, avec Lucie, avec Mathieu. Donc c'est beaucoup de travail. Au final, on y est. L'émission, elle est prête. Elle est là mardi. Voilà. Et bon, j'ai d'autant moins de mal à assumer le partenariat que je m'habille, mais ça, vous le savez, les habitués, quand c'est Lio, puisque moi, j'aime bien quand c'est simple, les habits. Donc, voilà, deux fois par an, je vais dans une boutique Célio, je m'achète des t-shirts bleus, des pantalons, des jeans bleus, voilà, et puis des, je sais pas, une veste bleue, voilà. Et je suis sponsorisé par la marque que j'utilise pour m'habiller, quoi. Et donc, dans mon armoire, j'ai une pile de t-shirts bleus. Parfois, je mets un t-shirt blanc. C'est lui aussi, mais moins souvent. Ou gris. Parce que une veste bleue et un t-shirt gris, c'est joli aussi. Mais en vrai, bleu. Je mets que du bleu. J'aime le bleu. Voilà. Chirandex dit bleu marine, comme par hasard. Ok. Quelle extrême droite. On vous voit. Hein. Donc voilà. Donc j'ai une pile de t-shirt bleu, j'ai une pile de caleçon. Pas bleu d'ailleurs, plutôt noir. Des chaussettes, j'ai une vie passionnante bleue. Chaussettes bleues. Et puis, toutes mes vestes de boulot, c'est des vestes bleues. Voilà. Et mes pantalons, c'est des jeans bleus. Voilà. Donc, totalement assumé le partenariat, parce que c'est ma marque. Donc, du coup, je viens de penser que, du coup, après leur avoir donné des sous pendant des années, parce que j'achète mes habits chez eux, j'en ai un tout près de la maison, c'est pratique. Du coup, ils me reconnaissent. Oh, bah oui. C'est ma visite annuelle. Je viens acheter des t-shirts bleus. Bah du coup, c'est eux qui vont nous donner des sous, puisque c'est eux qui vont nous aider à financer ce projet. Voilà. Scream Killer a raison, c'est littéralement du cashback. C'est du cashback, ils me remboursent. Ils pourront sponsor ta campagne. On n'aura pas besoin de sponsoring pour la campagne. On ne prendra pas l'argent des entreprises, on ne prendra pas l'argent des marques, des milliardaires. On fera une campagne à coût zéro, on fera une campagne sur le numérique. On n'ira pas dans... Ah, il est là, Poupito de Berlin, tiens, ça va. Quelqu'un me dit, je vois un message dans le chat, Poupito de Berlin, t'es désagréable. C'est notre ami du matin, il est toujours désagréable et on le garde. Mais j'ai raté son message, mais pas vous. Ah oui, je suis toujours là pour dénoncer ce trou du cul, me dit Poupito de Berlin. Ah, oh, mon fou du bus préféré. Attends. Je pense... En fait, je veux pas trop me moquer parce que je pense que Poupito a vraiment un... Ah ! Le feu, c'est parce que t'es antisémite aussi ? Je remonte dans le chat et je vois un feuge. T'es antisémite en plus. J'allais dire peut-être que le gars a vraiment un problème d'ordre psychologique et psychiatrique, faut pas se moquer. Mais non, je pense que t'es juste un gros con en fait. J'adore. Bon. Alors, comme on n'aime pas trop bannir les gens, on laisse toujours la chance à l'intelligence et à la discussion. Le jeu, c'est de dire à Popito de Berlin, qui passe tous les matins, il a vraiment que ça à foutre. Et je pense vraiment qu'en toute amitié, tu pourrais utiliser ton temps mieux. Et on lui dit à demain. Voilà, je te dis à demain. Ah non, je t'ai bloqué, je voulais pas. Merde, attends, je te débloque. Alors attends, débloqué. Popito de Berlin. Comment je fais ? Ah, mettre le compte en sourdine, live entier. Pas demain parce qu'il n'y aura pas de revue de presse. Mais à la prochaine donc. Feu, je sais quoi, c'est du verlan pour juif. Voilà. C'est notre petit content, notre petit divertissement. Mais t'as que ça à foutre en vrai ? De venir te faire bannir de mon live ? C'est. Finalement, je suis un peu essentiel pour dans ta vie alors. Pff, je suis désolé que t'aies pas d'autres trucs à faire. Du sport, non ? Un livre à lire ou je sais pas ? D'autres lives ? Peut-être une recherche d'attention, ouais. Merci Lavinox pour l'abonnement. Merci Cherge. J'adore ce pseudo, c'est pas Serge, c'est Cherge. Il cherche un peu l'attention et tu lui en donnes, Sam, c'est gentil de ta part. En vrai, ouais, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Je pense que quelque part, ça lui fait plus de bien que de mal. Le petit ban quotidien. Je pense effectivement que ça crée une interaction. Tu vois, ça c'est mon côté un peu sympa. Merci Cherge, tu régales. Merci Tom du 881 pour le Prime. Moi j'aime qu'un mec débarque dans mon chat le matin et me traite de trou du cul. Voilà. Comme ça, ça nous renvoie à notre stream de dimanche soir sur Balatro, là, pour ceux qui ont la ref. Merci Ketzak pour l'abonnement Faire la Commu. Merci GGBlues17 pour le Prime. Merci Arfroxys pour le 30e mois. Vous êtes incroyable. Merci Jeannot. Merci Ola. Merci Mad Max. Je sais pas comment les mecs font pour rester sur un live qu'ils aiment pas. Ben moi non plus, mais c'est fascinant. Je trouve que c'est très intéressant. Moi ça me fascine. Bon, on a assez discuté. Normalement la règle sur cette émission c'est 30 minutes de blabla max. Et là on a fait 41 minutes, je suis désolé, je m'en excuse, c'est parti. Je vous mets le sommaire. Hop. La bonne nouvelle c'est qu'on a déjà éliminé un fou du bus dans le chat. Ok, désolé d'avoir été aussi long, c'est parti pour la revue de presse, il y a beaucoup de choses ce matin. Donc je vous ai mis le sommaire, les thèmes qu'on va donc aborder aujourd'hui, donc TC42 tu régales, qui m'a mis gentil message, merci Diesel tu régales, donc je vous mets les time codes aussi, les timings, donc 42 minutes, donc on commence le sommaire à 42 minutes, pourquoi ? Parce que cette revue de presse vous pouvez aussi la consommer en replay, gratuitement sur Twitch, sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'être abonné hein, sur Twitch, c'est gratuit, de même que je virerai toutes les pubs. Et désormais aussi en podcast, pour l'exclamation podcast, dans le chat, depuis deux semaines, on est aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toutes les plateformes de podcast audio, voilà, à partir de 15-16 heures tous les jours. Voilà. Il y a plein de gens maintenant qui écoutent ça comme ça, c'est formidable. Je vous branche la tablette et on y va. 42 minutes, le sommaire. Ah, salut Malik. Alors, j'ai pas eu l'occasion, non. Mais merci de passer. Alors, let's go. Ce matin, on va parler de ça. On est dans le sommaire, donc c'est pas maintenant qu'on discute, c'est pas maintenant qu'on débat. Là, je vous donne juste l'essentiel de l'actu pour ceux qui n'ont pas forcément 2-3 heures à nous consacrer. Bien sûr, c'est la tablette. C'est la tablette de Nico. C'est la même. Il me l'a donnée. Donc, ce matin, on va parler de Poutine versus l'Europe. C'est la une du Parisien. La guerre des nerfs, nous dit le Parisien. Sur mer, dans les airs, dans le cyber, la Russie ne cesse de tester les capacités de défense des pays alliés de l'Ukraine. Ça dure depuis un petit moment. Avec l'objectif de déstabiliser, d'influencer les opinions. Ça, c'est l'analyse du Parisien ce matin. En Europe, la riposte s'organise. L'Occident à l'épreuve de la Russie. Hein, on va parler des infos, de l'analyse qu'on peut faire de tout ça. Voilà. Et puis, j'ai trouvé une ITV, une interview d'un ancien chef d'état-major de la marine française qui s'appelle Bernard Rogel, qui dit des choses plutôt intéressantes sur ça. Voilà. Quel est le sens du message que Poutine veut envoyer, comment il faut réagir. C'est assez intéressant. Ça sera le premier sujet. Et puis, vous étiez nombreux à m'en parler hier, en me disant, ah, mais tu parles pas du vaisseau, du navire fantôme russe ? Eh bien, si, vous avez raison, j'aurais dû vous en parler hier, on avait beaucoup de choses. Et donc, je vous ai trouvé un article aujourd'hui dans le Figaro qui est assez clair sur cette histoire de vaisseau fantôme russe immobilisé au large de Saint-Nazaire depuis le 28 septembre et sur lequel des militaires français sont montés. Pourquoi ? Comment ? Les mystères du vaisseau fantôme russe en pleine guerre des drones, parce que justement, il serait lié à cette guerre des drones. On va en parler. C'est un navire chinois, non René. Le capitaine, a priori, serait chinois. Mais ce bateau qui a plein de noms, hein, parce que ça change de nom tous les 500 km, enfin bon, c'est super chelou. C'est un navire, a priori, russe, voilà, qui transporte du pétrole, en fait, pour la Russie. La Russie n'est pas responsable de ce qui se passe. Pourquoi des milliards injectés en Ukraine ? Merci, Doudi, pour cette analyse géopolitique. C'est vrai que nous avons totalement oublié que c'est l'Ukraine qui a déclenché la guerre contre la Russie. Merci beaucoup pour ce rappel. Oh là là, nom de Dieu, ça fait tellement mal. Alors, donc on parle de ça ce matin. On parle aussi du Maroc. Plusieurs jours qu'on suit la mobilisation de la jeunesse marocaine. On a parlé aussi de la mobilisation de la jeunesse de Madagascar, de même qu'on a parlé de la mobilisation de la jeunesse du Népal il y a quelques temps. Partout dans le monde, dans des pays assez différents, il y a une jeunesse qui se mobilise contre des pouvoirs, voilà, pour dénoncer les conditions de vie, pour dénoncer le manque de démocratie. Et là, depuis samedi dernier, eh bien, il se passe des choses très intéressantes au Maroc. Je vous lirai à nouveau un article là-dessus ce matin. La Gen Z 212, c'est le nom du mouvement, embrase le Maroc, c'est dans le Parisien, voilà, et aussi un article dans La Croix, voilà. La fronde de la jeunesse marocaine vire au drame, parce qu'il y a eu, des victimes. Merci Flamme d'Argent, tu régales. Merci Juste 34. Merci Lévinox. Voilà. Je vous en parlerai. Qui a lancé ce mouvement ? Je vous en parlerai. Ouais, c'est un mouvement qui, justement, n'est pas incarné le moins possible pour éviter la répression. Voilà. Donc, on parlera de la jeunesse marocaine. On parlera aussi de la flottille pour Gaza, arraisonnée par l'armée israélienne. Voilà. Hier, on avait constaté que certains bateaux étaient passés à travers et avaient poursuivi leur route. On fera le point aujourd'hui. L'humanité semble dire que quasiment tous les bateaux ont été arraisonnés. Israël en toute impunité, titre l'UMA. Après l'arraisonnement de leurs bateaux, les participants à la flottille Global Sumud ont été placés en détention à Gaza. L'entreprise d'anéantissement se poursuit. Et l'humanité qui appelle à la lutte pour libérer les membres de la flottille qui sont actuellement retenus, dont pas mal de ressortissants européens. J'apprends dans l'humanité que samedi, demain, ouais, ce sera l'anniversaire, les 80 ans de la Sécu. De la sécurité sociale. Voilà. Donc il y a un dossier dans l'humanité, si ça vous intéresse, que je vous invite à lire, sur qu'est-ce que la Sécu, son histoire, pourquoi elle est importante. Et de rappeler aussi que tous les pays du monde n'ont pas l'équivalent d'une sécurité sociale, voilà. Que certains critiquent régulièrement. Et par exemple, l'humanité nous rappelle quelle est la situation aux États-Unis. Les États-Unis, où il n'y a pas de Sécu, où il y a quelque chose que Obama a lancé pour les plus fragiles, les plus démunis, qui est l'Obamacare. Voilà. Mais l'humain nous explique comment ça se passe aujourd'hui quand on a des problèmes de santé aux États-Unis. Une manière de nous rappeler que cette sécu qu'on critique tant, que certains critiquent tant, y a pas mal de pays au monde qui aimeraient bien l'avoir. Voilà. On lira ça dans l'humain. Un petit peu de Le Cornu. Un petit peu de Le Cornu. Hein, bon, Le Cornu, c'est qui ? Sébastien Le Cornu, dernier ministre en date du président Macron. Ça reste jamais très longtemps. Tu m'étonnes. Hein, on a un petit souci, c'est que le pouvoir exécutif du président Macron n'est pas soutenu par une majorité à l'Assemblée. Donc, c'est un peu compliqué de mettre en œuvre des réformes et même de garder un gouvernement plus de quelques mois. Donc, le dernier s'appelle Sébastien Le Cornu. Pour l'instant, il est tout seul. Il n'a pas de gouvernement. Il est juste Premier ministre. On attend le gouvernement. On attend l'annonce de la politique, un discours de politique générale. On attend un budget. Voilà. Dans les prochains jours, on devrait connaître tout ça. Le kit ou double de Lecornu, c'est la une des Échos. Ultime consultation, notamment avec le PS aujourd'hui, et un Premier ministre qui devrait dévoiler son gouvernement ce week-end. Voilà. Avec des pistes de propositions, notamment sur le plan fiscal. Exit la taxe Zucman souhaitée par la gauche, hein, il l'a dit. Donc il a dit qu'il va faire des annonces sur le pouvoir d'achat. Voilà, on verra. C'est pas foufou, hein, mais c'est une actualité politique, je pense qu'il faut suivre, ne serait-ce que pour comprendre ce qui va suivre après, quoi. Et puis on parlera d'IA, regardez. Deepfake et décarbonation. Ça, c'est assez passionnant. On a d'abord un truc qui arrive qui s'appelle Sora d'OpenAI. Donc si je dis pas, je prononce à la française. OpenAI, je crois, c'est l'entreprise qui a lancé ChatGPT, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il y a une nouvelle application qui s'appelle Sora, qui permet de générer des vidéos au réalisme bluffant. C'est Sora 2, ouais. Mais aussi d'insérer des personnes réelles. Donc en fait, d'après ce que je comprends de l'article ici du Figaro, c'est une appli d'IA, donc Sora, Sora 2, c'est la V2, qui met un peu à la portée de tout le monde la possibilité de faire des deepfakes. Des vidéos avec où tu prends une personne et tu lui fais dire ou tu lui fais faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc ça crée des inquiétudes, bien sûr. Voilà. Donc là, le Figaro, je trouve, en parle très bien. Et du coup, puisqu'on avait une petite page IA, eh bien, j'ai un édito dans Le Monde qui fait un édito sur l'IA, l'intelligence artificielle, incompatible avec la décarbonation. Le Monde s'est penché sur des projections de groupes de réflexion, de scientifiques qui disent qu'en fait, l'utilisation de l'IA est en train d'exploser dans le monde, va exploser de façon exponentielle dans le monde, notamment aux États-Unis. Hein, et la consommation énergétique engendrée par ça, elle est gigantesque. Et Le Monde dit, l'IA, le boom de l'IA à venir, n'est pas compatible avec la décarbonation de notre économie. Et que c'est contradictoire avec notre souhait de lutter contre les changements climatiques. Waouh! Voilà. Donc je trouvais ça assez important pour vous en parler. Et puis régulièrement, depuis quelques jours, j'ai la question qui pop dans le chat et je la comprends. Hein. Mais est-ce que tu vas au GP Explorer? Alors non! Ce week-end, si j'avais eu du temps, je serais plutôt allé au VCT Paris Valorant, quoi. Voilà. Mais j'irai même pas parce qu'en fait voilà, la rentrée a été trop chargée et ce week-end je préfère streamer cool et puis passer du temps avec ma famille, quoi, avec les petits, puis avec Hélène. Donc déjà, si j'avais du temps, je serais pas allé au GP, je serais allé au VCT, voilà. Et le GP non. J'avoue que je suis pas super hypé par l'événement et peut-être que je me trompe, on en parlera, vous me direz. Peut-être pourquoi le GP c'est top. Mais là, on a un coup de projecteur c'est des Échos ? Non, c'est du Figaro, sur l'aspect économique du GP et le fait que ça fait saliver les annonceurs, voilà, qui se ruent, qui se pressent pour afficher leur marque au GP Explorer. Voilà. La course de Formule 4 organisée par Squeezie est diffusée sur France 2. Ah oui, il y a France 2 qui a acheté les droits aussi, c'est assez intéressant. Il est parrainé par une kyrielle de marques, et à tel point, nous dit l'article, que les marques, elles sont tristes que ce soit a priori le dernier GP, parce que ça y est, maintenant, elles ont trouvé un truc pour mettre de l'argent, pour être vues des jeunes, parce que parfois, elles mettent un petit peu de temps à comprendre ce qu'il faut faire, et puis et au moment où elles ont compris que, dire, ah bah tiens, on a envie de mettre de l'argent là-dessus, les organisateurs disent, ouais, mais il n'y en a plus après. Voilà, donc on verra là-dessus. Il n'y en a plus, on verra bien. C'est Rive qui présente sur France 2. Ok, c'est intéressant. Ouais, bah, Rive fait beaucoup de choses pour France Télévisions maintenant. Voilà. Avec Cécile Gray ? Ok. C'est marrant parce que. Okay. Bon, je peux pas tout vous raconter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Donc, France 2 a acheté ça, mais on sait pas combien. Et on ne sait pas combien. Le chiffre est secret, c'est écrit dans l'article. Voilà. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, on est sur un groupe public, une chaîne publique et de l'argent public pour partie au moins et on sait pas combien, mais en tout cas ouais, ça a été donc voilà. Peut-être qu'on saura un jour. Donc hop, on parlera de tout ça. Vous avez vu, il y a beaucoup d'actu, hein. Attends, il y a Guerrier sur du pain qui me parle du fait qu'il est allé sur l'émission Quotidien, sur le plateau. Est-ce que finalement, Bailan et Nico, ils sont passés dans Quotidien, comme certains le disaient, ou pas? Parce que c'est un bruit que j'ai entendu. Non, finalement. Pas vu, non? Bah alors, c'est quoi cette histoire? C'est pas toi qui disais? Non, c'était les gens dans le chat qui disaient, ouais, ils ont refusé de parler. Je vous cite les infos dans le chat. Non, ils ont refusé de parler au Monde parce qu'ils se réservent pour Quotidien. Plein de gens m'ont dit ça. Alors, peut-être dans l'émission du vendredi, parce que l'émission du vendredi, elle n'est pas en direct, elle est enregistrée le jeudi. Donc, peut-être que l'émission a été enregistrée hier et sera diffusée ce soir. Parce que l'émission du vendredi n'est pas en direct. Ok, bon, bah, on verra ce soir. C'est peut-être pour ce soir. Ok, merci Légion. Bon, c'est pas mal le sommaire là, vous avez vu? Oui, je savais, il y avait un journaliste de Quotidien, ouais. Mais c'est pas parce qu'en fait ils ont fait une interview sur place que ça exclut le fait qu'ils puissent être invités en plateau. Ça peut faire des images d'illustration, ce qu'on appelle des images d'illustre. Ok. Pourquoi l'émission du vendredi n'est pas en direct? Parce que ça coûte moins cher. D'abord, ça libère l'équipe pour le week-end. Et puis surtout, c'est moins cher. Une émission enregistrée, c'est moins cher qu'en direct. Et du coup, avec l'équipe mobilisée le jeudi, ils font deux émissions. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? Allez. 56 minutes, on attaque sur la Russie, sur Poutine. Comment tu vas? Je vais très bien, Capsider, merci beaucoup. Trop gentil, les gens qui demandent... Vous savez, c'est deux salles, deux ambiances, t'as des gens qui débarquent sur des chats pour dire « Eh, trop du cul !» Et puis il y a les gens qui disent « Eh, comment ça va ?» Vous voyez? C'est fou, hein? Bon. Moi, j'aime bien. Deux salles, deux ambiances. Alors, attendez, je vous mets la petite flèche du sommaire ici. Voilà. Comme ça, la petite flèche, elle permet à ceux qui arrivent pendant la revue de presse, parce qu'on vient quand on veut ici, hein, de savoir où on en est. Là, par exemple, si tu arrives pendant la sécurité sociale aux États-Unis, 57, merci beaucoup. Du coup, tu sais qu'avant on a parlé de Poutine, du Maroc, de Gaza. Voilà. Tu mets pas 10 messages dans le chat en mode bah, est-ce qu'il va parler de ça? Est-ce qu'il a parlé de ça? Voilà, c'est marqué. C'est dessus, c'est comme le port salut. Let's go. Ok, on y va. J'ai votre go. L'OTAN veut provoquer une guerre pour garder son hégémonie. Merci Poutine, peux-tu sortir de ce chat, s'il te plaît? Je ne savais pas que Poutine savait écrire en français. Incroyable comme ça. Ça doit être l'IA, ça. Ou Reverso, les traducteurs, là. C'est incroyable. Merci pour ces éléments de langage qui sont ceux de Moscou. Merci beaucoup. Ils sont à deux doigts de nous expliquer que la guerre en Ukraine a été provoquée par les Ukrainiens, quoi. Ah ben si, c'est d'ailleurs, en général, c'est ce que vous dites aussi. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune. Poutine et l'Europe, la guerre des nerfs. Sur mer, dans les airs ou dans le cyber, la Russie ne cesse de tester les capacités de défense des pays alliés de l'Ukraine avec l'objectif de déstabiliser et d'influencer les opinions. En Europe, la riposte s'organise. De quoi s'agit-il? Est-ce que l'édito est intéressant? L'édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Ok. Alors, l'intérêt d'un édito, c'est que, bon, le journaliste donne son avis, ok, ça c'est qu'une analyse, on en fait ce qu'on veut, mais souvent l'édito, il rappelle des faits aussi. Allons-y. Stress test, dur à dire. Charles de Saint-Sauveur, le Parisien. Et si Poutine avait commis avec l'Europe le même péché d'orgueil qu'avec l'Ukraine en sous-estimant son adversaire? Je vous rappelle que Poutine avait promis d'envahir l'Ukraine en 24 heures? 48 heures? Waouh! L'homme qui pensait éliminer Zelensky et mettre Kiev dans sa poche en quelques semaines soufflera en février prochain sur les 4 bougies de son opération spéciale. 4 ans, non? Et Kazakh, notre ami qui est en fait des Poutine dans le chat, dit « Poutine n'a jamais dit ça !» Donc tu confirmes que tu es bien Poutine. Il l'a dit. Il l'a dit, bien sûr. C'est 4 ans, ça fera 4 ans? Bien sûr qu'il l'a dit. 2022, 2026. Waouh. Okay. Donc, pas 3 jours, mais 4 ans de cette opération spéciale. Le même, croyant faire trembler cette Europe qu'il méprise souverainement, a découvert qu'elle répondait aux provocations d'une voix calme, résolue, son désaccord apparent. Ceux qui soutiennent Poutine, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un jour, il faudra m'expliquer pourquoi. J'ai toujours pas compris, moi. Sans doute, d'ailleurs, que les Européens se surprennent eux-mêmes à relever ainsi le gant sans étaler leur faiblesse supposée ou les éternelles divisions qui la minent. Personne ne songera à comparer la pluie de missiles qu'essuient depuis tout ce temps les Ukrainiens avec les incursions pour l'heure inoffensives de drones ou de jets dans le ciel occidental. Donc on va en parler de ces incursions. Ouais. À l'époque de la guerre froide, qui revient à l'idéologie au moins, on parlait de gesticulation stratégique. Il faudra réapprendre à vivre avec cette grammaire, à garder son sang-froid, mais qui sait ce que le mauvais génie du Kremlin a en tête. Rares étaient ceux qui auraient misé un copec sur une invasion de l'Ukraine, même improbable. Le scénario d'une agression contre un membre de l'OTAN doit donc être pris au sérieux, dit ce journaliste. Avant la guerre en Ukraine, il y a plein de gens qui disaient « Mais jamais, jamais, l'armée russe va attaquer l'Ukraine, c'est vrai. » Donc, le scénario d'une agression contre un membre de l'OTAN doit être pris au sérieux, dit ce journaliste, dans le droit fil d'un adage latin qu'on pensait ranger au rayon langue morte, pour ceux qui ont fait un peu de latin, hein, « Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. » Même si ce n'est qu'une guerre des nerfs, pour l'instant, tu as littéralement un sommaire sous les yeux, Lightylol. Regarde, sommaire. T'as tous les thèmes d'aujourd'hui. La petite flèche, c'est là où on en est. Il y a des gens qui demandent si on va parler du Proche-Orient aujourd'hui, alors qu'il y a le sommaire. Ça se prononce comme on veut, Cyril, puisqu'on ne sait pas comment parler les Romains. En vrai. Donc, vis ou vis, comme tu veux. Latin d'église, latin romain, latin... Même si ce n'est qu'une guerre des nerfs pour l'instant, c'est à ce prix, celui de la fermeté et de la réponse appropriée, que tout risque d'escalade sera contenu. Les réponses au stress test de Poutine doivent être sans ambiguïté, sans quoi il continuera à faire grimper le tensiomètre sur notre vieux continent. Bon, c'est une analyse, moi ce qui m'informe, intéresse, c'est plutôt les infos ce matin. De quoi s'agit-il ? L'Occident à l'épreuve de la Russie. De la plus anodine à la plus grave, Moscou lance des opérations, pour ceux qui ont loupé les infos de ces dernières heures, derniers jours, provoquant les pays alliés de l'Ukraine. Voilà. Objectif, tester leur capacité de défense et de résilience. C'est là où les pro-Poutine vont nous dire mais en fait, non, c'est l'OTAN qui provoque la Russie. J'ai toujours pas compris ce truc-là, moi. Des commandos marines français font. Sans Zodiac au large de Saint-Nazaire pour arraisonner un pétrolier de la flotte fantôme russe, le Pushpa, dont on va parler ce matin. Pourquoi ? Parce que suspecté d'avoir servi de plateforme de décollage pour des drones non identifiés ayant survolé le Danemark avant la tenue d'un sommet européen à Copenhague. La scène fait penser à un film d'espionnage de la guerre froide. Merci Riku et embrasse ton fils. Sauf que depuis l'invasion de 2022, la Russie est passée à la guerre chaude de haute intensité en Ukraine. Et pour ce qui concerne les pays européens, à une guerre hybride sans répit. On va parler de cette histoire de bateau fantôme russe tout à l'heure, avec un article du Figaro. Comme si le Kremlin voulait tester les capacités de réaction de l'OTAN, ainsi que le niveau de résilience des opinions et des gouvernants européens. Merci Mao pour le Prime, merci Cactus Virtuel, merci Tom, merci Maël, merci Redcup. La France est très visée, comme l'ont montré le récent épisode des têtes de cochon déposées devant des mosquées, puisqu'on sait aujourd'hui que ça nous vient plutôt de la Russie, cette histoire, ou celui en 2023 des étoiles de David taguées à Paris, des réseaux pro-russes. Pro-russes était la manœuvre. Objectif, déstabiliser nos sociétés démocratiques où de tels événements ont retentissement très fort. Les Russes, relèvent les experts, sont des maîtres de la manipulation et possèdent des bataillons d'analystes politiques rompus à détecter nos faiblesses. Parfois, ils viennent même dans nos chats. C'est moi qui ajoute ça. Plus... Plus qu'aux dirigeants, le message est adressé aux opinions et se résume ainsi. Arrêtez d'embêter la Russie, poussez vos gouvernements à cesser de soutenir l'Ukraine. C'est marrant parce qu'on a des messages comme ça, nous, dans le chat. Mais on n'est pas dupes. Sur le plan militaire, la vraie question, résume un connaisseur du dossier, est de savoir comment l'OTAN défend ses frontières. L'affaire du Pushpa, qui transportait du pétrole russe, merci Wabedou. Ouais, on essaie de faire un petit peu du divertissement aussi. L'affaire du Pushpa qui transportait du pétrole russe à destination de l'Inde en violation des sanctions occidentales, c'est pour ça qu'on parle de navire fantôme, est l'occasion d'afficher la fermeté. Emmanuel Macron appelant ses pairs au sommet de Copenhague, sommet de l'Union européenne, à accroître la pression sur la flotte fantôme, parce que ça réduit clairement la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. Sur mer, dans les airs ou dans le cyber, ces dernières semaines, le rythme des tests ou des provoques est soutenu avant Copenhague. Une vingtaine de drones russes, des engins de reconnaissance de type Gérant ou Guéran, je ne sais pas comment on dit, ont opéré des incursions dans l'espace aérien polonais, tandis qu'au-dessus de l'Estonie, trois MiG-31 russes ont intercepté par des chasseurs italiens et suédois. Voilà. Bon, après, certains vont nous dire que ce n'était pas des MiG russes, que c'était peut-être des MiG soudanais déguisés, je ne sais pas. Moi, après un moment, je vous suis plus, moi, j'y arrive plus. Et contraint de regagner l'espace international. À chaque fois, pour les derniers, se pose la question, est-ce délibéré ou une erreur de tir? Si les instances de commandement otaniennes comme nationales ont sans doute une idée claire, elles ne communiquent pas forcément. Néanmoins, si le doute relatif plane sur les drones de Pologne, parce que parfois on n'est pas sûr, hein, les États de l'OTAN le disent eux-mêmes, on n'a pas toujours des preuves formelles. Après, ils se disent, bah, ils viennent d'où ces pays? Néanmoins, si le doute relatif plane sur les drones de Pologne, donc le Parisien le reconnaît, de même que la Pologne d'ailleurs, l'aspect intentionnel paraît certain pour l'Estonie. Car, relève un expert, il y a eu contact entre les pilotes. Après, c'était peut-être des gars qui faisaient mine d'être russes. Surtout, ce n'était pas une première. Depuis 2022, nous avons un historique des incursions aériennes, poursuit le même. Jusqu'ici, nous avons noté une certaine prudence de la Russie qui prend garde de ne pas s'engager sur un chemin pouvant mener à l'application de l'article 5 de l'OTAN. Il faisait MIG d'être russe. Mooms. Ça, c'est beau. Stipulant qu'en cas d'attaque contre un de ses membres, les autres pays de l'Alliance viendraient à son secours. Exemple qu'en 2022, un missile portant des inscriptions en caractère cyrillique est tombé sur la Pologne, Moscou s'est empressé de démentir auprès des Occidentaux d'être l'auteur du tir. En fait, l'engin était ukrainien et aurait dévié de sa trajectoire. Avant cela, la Russie avait renoncé à l'escalade après la destruction en 2015 d'un de ses chasseurs, ainsi que l'hélicoptère qui lui portait secours par la Turquie, membre de l'OTAN, dont il avait violé l'espace aérien. La Turquie, il rigole pas. Mais aujourd'hui, certains proches du dossier n'excluent pas que Moscou soit prêt à hausser sa prise de risque. Donc on comprend que pendant quelques années, ça a été assez prudent. Et ça l'est moins. Donald Trump n'a-t-il pas invité les pays de l'OTAN survolés à abattre les intrus? Bon, ça c'est Trump. C'est Trump. Formule à l'emporte-pièce, peut-être, mais Emmanuel Macron, adepte de l'ambiguïté stratégique, pilier d'une dissuasion crédible, lui-même dit que rien ne serait exclu en telle hypothèse. J'ai du mal à imaginer Macron donner l'ordre d'abattre des avions russes dans le ciel français, mais bon, pourquoi pas. Pour les Russes, le risque est payant en termes tactiques. Ainsi, après l'alerte polonaise, Paris a envoyé sur place 3 rafales pour patrouiller. Cela implique le déplacement outre les chasseurs d'un Airbus A400M, de mécaniciens, d'un stock d'armement. Fixer des moyens importants sur une zone alors qu'il pourrait être employeur est une tactique éprouvée. De même, dans la guerre informationnelle, braquer les regards sur les têtes de cochons ou des tacs déposés au pied de la tour Eiffel avant les Jeux, des cercueils siglés « soldats français de l'Ukraine » mobilisent des escouades d'enquêteurs. Face à cet éventail infini d'opérations, la meilleure réponse, insiste notre connaisseur, est le sang-froid, ni surréagir, ni sous-évaluer la menace. Voilà. C'est ce que dit un peu l'ancien chef d'état-major de la marine française, là, qu'on va lire aussi après. Je vous lis un petit peu. Camille nous rapporte que la Belgique aurait été aussi survolée par les drones. J'ai pas encore vu l'info, merci Camille de me la donner. Merci Clément, on t'attend. Alors, parfois, vous lisez des messages et vous dites c'est du troll, c'est une blague, c'est quelqu'un qui veut nous faire rire. Et en fait, comme je connais le pseudo, je peux vous dire que c'est du premier degré, parce que je ne sais rien faire, mais je me rappelle assez bien des pseudos et des messages. Kazak63 écrit, par exemple, Kazak. Dans le pseudo, vous avez Kazak. Écrit, soyez discret, en vrai, soyez discret, les gars, c'est un moment. Faites des efforts sur les pseudos. Ces drones ne sont pas russes, c'est juste pour justifier les investissements dans la défense. Donc, et c'est pas du troll, hein, c'est du premier degré. Les gars, faites des efforts sur les pseudos, par contre. Bientôt, les pseudos, ça va être Moscou 56, Poutine, I love you, faites des efforts. Ah, il y a aussi ceux qui, quand les informations, ils sont pas beaucoup, hein, mais moi ça m'amuse, ça me détend aussi, ça me distrait aussi de les lire, qui quand vous rapportez ce genre d'informations, donc les pays occidentaux qui s'interrogent sur le survol de leur territoire par des appareils qui sont ou seraient russes, selon les preuves dont on dispose, disent: Ah Samuel, je suis un peu déçu, je pensais que vous seriez plus indépendant d'esprit, vous êtes manipulé. Donc ça, quand l'information ne va pas dans ton sens, dans ce que tu as à un moment décidé de croire, contre l'évidence et contre les informations, du coup, c'est l'émetteur du message qui devient manipulé. Manipulé par qui, tu sais pas, mais même manipulé, quoi. Alors, lisons maintenant cette interview d'un ancien chef d'état-major de la marine, donc c'est l'ancien patron de la marine nationale française, qui s'appelle Bernard Rogel, qui à une époque a dû se poser ces questions, puis nous partage un petit peu les fruits de sa réflexion là-dessus, quoi. Merci, Draxi. En fait, ce qui est intéressant, cette revue de presse, c'est que ça nous permet aussi au quotidien, tous les jours depuis 5 ans, de nous demander qu'est-ce qu'une information, comment on vérifie une information, comment on lui apporte du crédit, comment parfois on peut être manipulé involontairement. Et c'est ce qu'on fait notamment sur ce sujet. C'est pour ça que je lis parfois des messages un peu étonnants, parce que c'est pour vous expliquer que ces opinions-là, elles existent aussi, quoi. Alors Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la marine, il dit, Trump, lui, il a dit aux pays européens, vous avez un appareil non identifié dans votre ciel, russe ou pas, vous tirez dessus. Bon, ça c'est Trump. L'ancien chef d'état-major, lui, il dit, il faut rester calme et surtout ne pas surréagir. Donc lui, il a été chef d'état-major de la marine de 2011 à 2016. Voilà. Il a été chef d'état-major particulier de Hollande et Emmanuel Macron à l'Élysée, donc il connaît un petit peu les questions militaires. Aujourd'hui, il est retraité. Comment interprétez-vous le raisonnement mercredi du pétrolier fantôme russe Pushpa? L'amiral, il dit, il n'y a pas de preuve formelle que le pétrolier soit impliqué dans le survol du Danemark par ses drones, observés ces derniers jours. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est de dire si on a des preuves formelles des trucs ou pas. Et quand ce sont uniquement des soupçons très forts. Là, par exemple, l'amiral dit qu'il n'y a pas de preuve formelle. Parce que justement, dans le camp de l'information, il faut toujours dire si on a des preuves, si on a des éléments objectifs pour affirmer quelque chose, ou si on a juste des suspicions. Voilà. C'est ce qui nous distingue notamment de ceux qui veulent désinformer. Là, par exemple, on a des suspicions sur l'implication de ce navire, mais pas de preuves formelles. Voilà. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ce bateau, il a connu depuis 2022 quatre propriétaires. Cinq noms différents et sept pavillons différents. Ça, par contre, c'est des infos. Voilà. Et du coup, il a été contrôlé pour soupçon d'infraction maritime. Il est un peu louche. Il est un peu louche. Son arraisonnement par des commandos français n'a-t-il pas été mis en scène par la France pour répondre à la menace russe, demande le Parisien. L'événement a percuté le sommet européen de Copenhague, mais je ne pense pas que c'était une mise en scène, dit l'amiral. Il n'en reste pas moins que cette flotte fantôme de bateaux affrétés par la Russie, estimée à 600 navires, dont 400 sous sanctions européennes, pose problème. Il représente une part importante des exportations maritimes de pétrole russe, donc exportations interdites, hein, sous sanctions, qui ont quadruplé depuis 2022, qui concourent à l'effort de guerre russe, à hauteur de 40% selon le président Macron. Voilà pourquoi en fait ces navires sont problématiques. Est-ce que, question intéressante du Parisien, avec ses incursions répétées dans l'espace aérien européen, Poutine a-t-il franchi un nouveau cap dans cette guerre hybride qu'il mène contre l'Europe? On assiste à une tentation russe, dit le monsieur, de venir tester les défenses des pays européens, surtout la solidité politique de l'UE et de l'OTAN. Vladimir Poutine, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, a pour l'Europe un profond mépris, dit cet amiral. Il se croit encore au temps de l'Union soviétique, à l'époque où celle-ci était la rivale des États-Unis. Il pense que les Européens sont faibles militairement et désunis. Alors il vient tester notre volonté de riposter, et jusqu'à maintenant il est déçu parce qu'il se heurte à un mur européen. Quel est le sens du message de Poutine? Demande le Parisien à l'ancien chef d'état-major. Hein? Il cherche à remuer les opinions publiques dans l'espoir qu'elles se mettent à trembler devant l'armée russe. Cette armée russe qui n'a pas réussi à envahir l'Ukraine. Il nous dit, regardez, j'en ai encore un peu sous le pied. Il est coutumier du fait, à nous de ne pas faire montre de faiblesse, parce qu'il pourrait alors être tenté d'aller plus loin, même si son armée est en difficulté en Ukraine. Voilà pour l'analyse de cet ancien chef d'état-major. Je vous lis et on enchaîne. Avec quelques infos en plus sur le fameux vaisseau fantôme russe. Je vous lis. Mais non, professionnel, je ne vais pas au GP. On en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas trop hypé même. Je vous lis. Risque d'escalade possible selon vous, demande Monsieur Sable Live. Ça, c'est, je n'ai pas la réponse à cette question, quoi. Waouh. Merci Darsaliot pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci Pelmich. Merci Mavroche. Merci Théotech. Merci Draxi. Vous êtes incroyable. Je vous lis. Je te lis Argonaut. Attends. Ah, j'arrive pas à retrouver ton ancien message. Attends, bouge pas. Arrgh. Voilà. Alors, Argonaut cite une déclaration publique de Poutine. Sur une tribune avec un journaliste, je ne l'ai pas lu. Je crois qu'on a assez joué avec les drones pour l'instant. Je promets plus de drones au Danemark. On ne voudrait pas gâcher leur magnifique paysage. Bon, je n'ai pas vu cette ITV, donc la source, c'est Argonaut 31. Si je la trouve, je la validerai, mais bon, tu me la rapportes. Je n'ai pas le lien, donc je ne peux pas vérifier, mais ok, je te lis. Ouais, les lives, ils sont sur la chaîne Twitch, en replay et sur YouTube, et aussi en podcast d'Air Lobby. Nelson, tu ne connais pas mes lives pour dire ce que tu viens de dire sur le Proche-Orient tout à l'heure et sur Israël. Je pense que tu n'as jamais écouté mes lives. Ou alors, pas suffisamment. Allez, je lis encore un ou deux messages et puis j'enchaîne avec l'histoire du vaisseau fantôme. Bah, c'est parce que tu n'es pas là assez souvent, mon Nelson. Mais je t'invite à venir tous les jours, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Et regarde, t'as un sommaire sous les yeux. Regarde, tu vois, ça arrive. On n'est pas au McDo, c'est pas à la demande non plus, hein. C'est pas les disques à la demande, hein. T'es pas sur énergie. On y va? On enchaîne avec l'article du Figaro? Bah oui, c'est écrit, Nelson, il suffit de lire. Allez, les mystères du vaisseau fantôme russe en pleine guerre des drones. On en a déjà parlé, mais on va peut-être avoir quelques infos en plus, quoi. Donc le Boraket, bon, c'est marrant parce qu'il a plein de noms différents. Tout à l'heure, j'ai l'impression. Le Parisien ne disait pas un autre nom? Bah oui, mais il a eu 1000 noms, ce bateau. Ah oui, le Pushpa. Oui, mais. 4 propriétaires, 5 noms, 7 pavillons différents depuis 2022. Même les médias ne savent plus quel nom il a, quoi. Bon, alors maintenant, c'est le Boraket. immobilisé au large de Saint-Nazaire depuis le 28 septembre. Enquête pour refus d'obtempérer, ouverte par les autorités françaises. Deux membres d'équipage passés en garde à vue. Ok. C'est le principe des vaisseaux fantômes. Ouais, mais c'est intéressant. Le 22 septembre dernier, à une cinquantaine de milles nautiques de Copenhague, navigue un pétrolier à coque orange et noire. Le Boraquet bat pavillon béninois. Il a quitté le port russe de Primorsk en mer Baltique le 20 septembre avec pour destination officielle Vadinar en Inde, où se situe l'une des plus grandes raffineries du pays, détenue à 49% par le géant russe de l'énergie Rosneft. Bon. À quelques kilomètres de là, dans la soirée, des drones sont repérés dans l'espace aérien de Copenhague, hein, le plus grand aéroport d'Europe du Nord. Pour éviter tout accident, le trafic aérien est paralysé pendant plus de 4 heures, donc ça n'est pas rien quand même. Après avoir survolé pistes et bâtiments de l'aéroport, c'est super discret, les drones finissent par quitter la zone, disparaissent dans le ciel de la Baltique, donc vers la mer, et les autorités danoises soupçonnent rapidement Moscou. Soupçons, hein, il n'y a pas de preuve irréfutable, je le rappelle. Le Kremlin, bien entendu, nie toute implication, mais le pouvoir russe a déjà été mis en cause à plusieurs reprises ces dernières semaines. Je sais pas à qui tu parles, Diesel. Notamment après l'incursion d'une vingtaine de drones dans le ciel polonais début septembre et 3 avions de combat dans l'espace aérien estonien quelques jours plus tard. L'incident est d'autant plus préoccupant que le Danemark doit accueillir un sommet européen à Copenhague les 1er et 2 octobre. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour le Boraquet, qui poursuit tranquillement sa route en mer du Nord, puis dans la Manche, avant de passer le Finistère, mais voilà qu'il dévie sa route pour s'immobiliser au large de Saint-Nazaire, le 28 septembre. Okay. Dans la foulée, le parquet de Brest annonce avoir ouvert une enquête sur le pétrolier à la suite d'un signalement de la Marine nationale, l'armée. En cause, un défaut de justification de la nationalité du navire / pavillon et le refus d'obtempérer du capitaine. Le 1er octobre depuis Copenhague, Emmanuel Macron évoque des fautes très importantes commises par l'équipage sans donner davantage de détails. Le même jour, des militaires français en treuil et cagoule sont aperçus à bord du navire, commando manifestement français qui est intervenu. Le procureur de Brest annonce dans la foulée le placement en garde à vue de deux membres d'équipage, se présentant comme le commandant du navire et le second. Donc c'était pas un navire militaire russe ? Bah non, mais... Putain, mais le problème, c'est Nelson. Mais personne n'a jamais dit que c'était un bateau militaire russe, mais vous comprenez rien, en fait. Enfin, vous, Nelson. Mais c'est un navire pétrolier. Mais vous le faites exprès ou quoi ? J'en peux plus. Mais ils sont plus forts, Nelson. Vous l'avez ? Voilà. Et on apprenait que le capitaine de nationalité chinoise serait jugé pour seul refus d'obtempérer. La justice devrait décider aujourd'hui de laisser libre ou de les placer en détention provisoire. En réalité, c'est un navire de la marine française qui a obligé le Boraquet à se détourner de sa route initiale. Le droit maritime international autorise en effet un bâtiment militaire à interroger les bateaux qu'il croise, voire à embarquer sur un bateau qui n'a pas de pavillon, en vertu de la protection du trafic maritime. Officiellement donc, l'arraisonnement du Boraquet par la France n'a pas de lien avec les drones du Danemark. Pour autant, s'interroge le Figaro, comment croire que l'intervention de la marine française ciblée sur ce bateau soit due au hasard ? D'autant que les autorités danoises avaient indiqué entre-temps qu'elles soupçonnaient plusieurs cargos, dont le Boraquet, d'être impliqués dans les survols de drones du 22 septembre. Par ailleurs, ce pétrolier, tout le monde écoute bien là, ce pétrolier est considéré par l'Union européenne comme appartenant à la flotte fantôme russe, une armada de plusieurs centaines de cargos utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole. Souvent vieux et en mauvais état, comme le streamer que vous écoutez, ils naviguent généralement sous pavillon frauduleux, sans propriétaire ni assurance. Leur AIS, leur signal GPS, est parfois coupé, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et ils changent régulièrement de nom pour limiter leur traçabilité. Voilà, le Boraquet, il est aussi connu sous le nom de Pushpa ou de Kiwala, selon les moments. Quoi. Outre l'Union européenne, le navire est sous sanction du Canada, de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. C'est un champion, c'est un champion. Le rôle est donc essentiellement économique. Le président Macron ne s'y est pas trompé, écrit le Figaro. Depuis Copenhague, le président français a encouragé ses partenaires européens à s'organiser dans le cadre de l'OTAN pour accroître la pression sur cette flotte fantôme russe. Emmanuel Macron a même cité l'exemple du Boraquet pour rappeler que cette pression pouvait passer par des contrôles effectués par les navires de guerre, par nos navires. Il est extrêmement important d'accroître la pression sur cette flotte. Merci la Mumzette pour ce 49e mois. Merci Zelda. Il est extrêmement important d'accroître la pression sur la flotte fantôme parce que ça réduit clairement la capacité de la Russie à financer son effort de guerre, a expliqué le chef de l'État. On a vu tout à l'heure ce pétrole exporté illégalement, contournant les sanctions européennes en la matière, ce pétrole il sert à financer l'effort de guerre russe contre la Russie. De telles opérations peuvent tuer le modèle économique de financement de l'effort de guerre russe en retenant pendant des jours ou des semaines ces navires et en les forçant à s'organiser différemment, a estimé le président. Le commerce pétrolier imputé à cette flotte fantôme représente plus de 30 milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui permet de financer de 30 à 40% de son effort de guerre contre l'Ukraine. Au-delà de leur rôle commercial, c'est intéressant ça, certains navires fantômes seraient équipés de dispositifs de communication qu'on ne retrouve pas normalement sur les navires marchands classiques, ce qui suggère qu'ils peuvent parfois être utilisés pour des missions de renseignement. Les autorités finlandaises et suédoises ont déjà signalé des navires fantômes qui laissent traîner leurs ancres pour accrocher des câbles sous-marins ou qui ralentissent un petit peu trop près des bases navales. Leur mission peut parfois être un petit peu hybride. L'article est super complet, je vous invite à le lire, c'est dans le Figaro, c'est page 16, je vous lis pas tout, sinon on n'aura jamais le temps d'évoquer toutes les autres informations là. Vous avez vu le sommaire, il y a beaucoup de choses encore à venir. Voilà, ça parle d'autres bateaux, ça parle du chemin précis de ce bateau, où est-ce qu'il a été repéré, tout ça. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime la presse écrite, c'est que parfois, un article, il est vraiment gavé d'infos. Celui-ci est plutôt intéressant, c'est page 16 dans le Figaro. Merci, Fazuti, merci pour ton message. Merci, Camille, pour les dernières infos. Alors, vous êtes plusieurs à me parler du ciel belge. Alors, je vais aller voir cette info, parce que moi, je ne l'ai pas vu encore dans la presse. Vous êtes plusieurs à me dire que le ciel belge, lui aussi, a été concerné par des survols de drones. Enfin, le territoire belge. Alors, voyons ça. Qu'est pas ça? Ah oui, il y a des trucs. Attends, là, vous avez rien, c'est normal. Là, vous avez quelque chose. TikTok, je vous le mets aussi. Voilà, hop, c'est ça. L'Allemagne et la Belgique touchées à leur tour par des survols de drones suspects. Article du Monde.fr il y a une heure. Le Figaro, après l'Allemagne, la Belgique survolée à son tour par des drones non identifiés. Article de la RTBF également. Voilà. On peut regarder cet article du Monde vite fait. Ces derniers jours, des aéronefs non identifiés. Eh, c'est peut-être des extraterrestres, hein. Merci, Minibobus. Merci The Beast Hunter pour ton message. Eh, c'est peut-être des extraterrestres, hein. Pourquoi personne ne pas les gens qui défendent Moscou là. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argument en vrai? Peut-être qu'il a déjà été utilisé. Ah, c'est peut-être des extraterrestres, hein. Ces derniers jours, des aéronefs non identifiés ont survolé outre-Rhin des sites militaires, des infrastructures énergétiques, un chantier naval. Un parlement régional, l'aéroport de Munich. Ça ressemble pas à un comportement d'extraterrestre, ça? Des engins ont également été observés au-dessus d'une base militaire belge. Après la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et le Danemark, voici que l'Allemagne et la Belgique ont signalé à leur tour des survols de drones suspects. Vendredi matin, la VRT, chaîne publique de radio-télévision flamande, a annoncé qu'une quinzaine de drones, c'est pas très discret quand même, avait survolé la base militaire d'Elsenborn dans la partie germanophone du pays, près de la frontière allemande. L'information a été rapidement confirmée par le cabinet du ministre belge de la Défense. C'était passé à 1h, vers 1h45 du matin précisément. De son côté, l'aéroport de Munich, donc on est en Allemagne maintenant, a été fermé pendant plusieurs heures dans la nuit de jeudi à vendredi à cause de l'intrusion de plusieurs drones d'origine inconnue, provoquant l'annulation de 17 vols et le reroutage de 15 autres vers d'autres aéroports affectant pas de 3 000 passagers. Ça casse les couilles pour les vols, ça, en vrai? Ok. Donc Allemagne et Belgique aussi maintenant. Un gros article dans Le Monde, hein. Vous lirez, vous irez le lire. Ok, je vous lis puis on enchaîne. On va passer à l'actu d'après. Hop, je reviens ici. TikTok, je vous remets les journaux aussi. Et hop, voilà. Quand certains, comme Libre Média et d'autres, dans un chat, disent c'est une propagande de guerre, tout simplement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'en fait ce serait les Ukrainiens ou les Européens ou les Français qui eux-mêmes enverraient des drones pour faire croire que ce seraient des drones russes. C'est ça? Ou les Américains? C'est ça. C'est ça l'idée? Pour préparer une guerre contre la Russie? J'essaie de comprendre le. C'est ça l'idée, hein? C'est ça que vous dites, hein? Ouais. Vous voulez pas plutôt partir sur les extraterrestres? Ce serait plus crédible en vrai, non? Vous voulez pas plutôt partir sur les extraterrestres plutôt? Parce qu'à un moment, c'est ça que vous expliquez. Enfin, j'ai quelques-uns qui veulent nous expliquer comment ça se passe en vrai. C'est ça l'idée, la théorie. Ok, donc c'est bien ça. Donc c'est bien cette idée-là. Je voulais être sûr. Ok, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, depuis plusieurs jours, on parle de la mobilisation de la jeunesse marocaine, et je pense que c'est important d'en parler. Voilà, de même qu'on a parlé de la mobilisation de la jeunesse de Madagascar ici, et aussi de la jeunesse du Népal, et aussi de la jeunesse d'Indonésie. On a lu hier un article qu'on a trouvé sur le site de France 24, qui était extrêmement intéressant, qui faisait le lien entre tous ces mouvements. Voilà. De ces jeunesses qui se mobilisent dans des pays pourtant radicalement différents, en expliquant les liens qu'il pouvait y avoir, les aspirations qui pouvaient être les mêmes. Voilà. Je vous mets la flèche, je vous mets la flèche. Ah oui, il faut que je mette le TC aussi. Attendez, on est à combien là? On est à 1h33. Et donc là, franchement, parce que hier, on s'est posé la question, mais c'est quoi le lien entre tous ces pays? C'est quand même des pays super différents. Et franchement, allez voir en replay. YouTube, Twitch ou en podcast audio. Mais l'article de France 24, il y a le sommaire, donc vous pourrez voir à quelle heure exactement, d'hier était super intéressant. Et donc, moi, je pense qu'il faut continuer à suivre ce qui se passe au Maroc. Donc, voilà, on y va. TikTok, je vous mets aussi la petite flèche qui vous permet de voir où on en est. Sommaire. Donc, Maroc, la jeunesse se soulève. Je vais vous lire deux articles ce matin, je crois, dans Le Parisien et dans La Croix. Let's go. Alors, la Gen Z 212, je crois que c'est le nom de ce, en fait, de ce mouvement au Maroc, embrase le pays, nous dit la Croix. Depuis samedi, des milliers de jeunes, forces vives et hyper connectées, manifestent pour demander des réformes. Nous avons demandé à Rabat, nous avons rencontré à Rabat, la capitale, les soutiens de ce mouvement spontané. Casque audio autour du cou, smartphone et réseaux sociaux à portée de pouce, Mohamed, 20 ans, étudiant à l'école nationale d'architecture de Rabat, Maroc, tchatche avec ses potes ce jeudi matin avant d'entrer en atelier. Il a tous les attributs de la génération Z, ces jeunes hyper connectés nés entre 97 et 2012, mais lui se revendique de la Gen Z 212, celle qui depuis samedi dernier au Maroc met le pays dont l'indicatif téléphonique est le numéro 212. Merci Yakira qui me disait aussi ça. 212, c'est l'indicateur téléphonique du Maroc. Je l'ai, j'avais pas la ref. Met le pays en ébullition. On veut que l'argent public serve à des choses nécessaires, aux hôpitaux, aux écoles, et non pas à la construction des stades de foot, dit ce jeune homme. Alors que le royaume chérifien accueillera la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN en décembre, et le mondial de football en 2030. Des millions sont dépensés pour des infrastructures, ça prouve que l'État a des moyens, mais pendant ce temps, il y a des familles victimes du tremblement de terre de 2023 qui dorment toujours sous des tentes, dénonce Meriem, élève également en architecture. Ce moment de contestation apolitique et sans leader, déclaré, orchestre chaque jour des rassemblements un peu partout au Maroc. Les lieux de ces marches sont dévoilés à la dernière minute sur la plateforme de messagerie Discord, qui est le moyen d'échange, de contact entre ceux qui se mobilisent. Au départ pacifique, certaines de ces manifestations infiltrées par des casseurs sont devenues de plus en plus violentes, ternies par des pillages, des voitures brûlées, des banques saccagées, et les affrontements avec les forces de l'ordre faisant des centaines de blessés dans les deux camps. On parle de centaines de blessés. Mercredi soir, trois personnes ont été abattues par les gendarmes près d'Agadir, alors qu'elle tentait, selon les autorités, de prendre d'assaut une brigade de gendarmerie. Donc au moins trois morts. Pour Hakim Sikou, qui est président de la section locale de l'Association marocaine des droits humains à Rabat, ces actes de vandalisme sont le fait de jeunes désespérés des quartiers populaires qui ne savent même pas qu'il existe une application Discord. Cela ne doit pas masquer à ses yeux les excès de la machine sécuritaire qui a procédé, rien qu'à Rabat, à des centaines d'arrestations injustifiable de jeunes de ce collectif réunis dans le calme. C'est devenu un crime d'être jeune au Maroc, dit-il. Ces manifestants interpellés n'ont pas du tout le profil de délinquants, sont des profs, sont des étudiants. La très grande majorité des révoltés appartient selon lui aux classes moyennes. Ils sont souvent dans des grandes écoles, mais leur futur est obscur. Sur Discord, où ils sont protégés par l'anonymat, il n'y a pas de chef. Toute décision est l'objet d'un vote, rapporte ce prof de philo. Pas mal l'article. Mohamed, l'étudiant en architecture, a battu le pavé sans incident en début de semaine à Kenitra, près de Rabat. Même si j'ai l'impression d'être un privilégié, dit-il, je sais que je peux à tout moment connaître la galère. Je n'ai aucune idée de mon avenir. Je ne sais pas si je trouverai du travail à la sortie de l'école dans 3 ans, souffle ce fils d'un responsable import-export et d'une mère au foyer. Oui, tout à fait, Ahmed a raison. On en a parlé hier, mais tu le rappelles, Ahmed, l'élément déclencheur de ce mouvement est le décès de 8 femmes à la maternité d'Agadir. Suite à un manque de moyens, notamment défaut de réserve de sang. Ouais, exactement. C'est l'élément déclencheur. En première année à la fac de Sciences Éco, à quelques pas du ministère de la Jeunesse, Sofiane, 18 ans, se demande parfois à quoi lui sert d'aller en cours. Pourquoi faire beaucoup d'études pour n'avoir rien au final, s'interroge le garçon. Au Maroc, le taux de chômage grimpe à près de 40% chez les 15-24 ans. Comme ses camarades, il pense à partir au Royaume-Uni, en Espagne, au Canada. Mais pas en France, dit-il, car votre police ne veut pas de nous. Driss, jeune père de famille coiffé d'une casquette Paris 2024, a donné de la voix tout près de la Médina. Trouver un médecin compétent dans le public pour faire une radio, c'est presque impossible. Dans le privé, ça existe, mais c'est trop cher. Trop cher pour moi, regrette ce serveur cuisinier qui gagne 4500 dirhams par mois, soit 421 euros. Salut MG. Bonne F1. Laïla, étudiante en architecture, s'élève, elle, contre la corruption et le système du piston. Pour une opération urgente, il y a des cliniques privées qui exigent de l'argent au noir. Dans les écoles, il est possible, contre une petite com, de ne pas avoir besoin de passer le concours. Mais ce qui l'affecte le plus, ce sont les inégalités sociales. Ces pauvres qui sont déshumanisés, qui font la manche au stop et au feu rouge. C'est surtout pour les autres que je veux me battre, dit-elle. Au Maroc, tu peux voir une belle voiture à côté d'un chariot tiré par un âne, rappelle l'un de ses camarades. Taha, 21 ans, fils d'ingénieur, lui espère que le mouvement fera tomber qui ? Le Premier ministre, Aziz Akhannouch, et ses ministres non qualifiés pour le poste, comme celui de la santé. Mais on ne souhaite pas, dit-il, mettre fin au régime, on est très attaché au roi Mohamed VI, martèle-t-il. Un discours partagé par la quasi-totalité des témoins que nous avons interrogés, rapporte le Parisien, hein, qui prône de grandes réformes plutôt qu'une révolution. Les fondateurs du mouvement Gen Z 212 affirment d'ailleurs solennellement agir par amour de la patrie et du roi. Ici, la monarchie demeure sacrée, même si je ne dirais pas non à une république, nuance un vieux militant, voilà, qui a participé au mouvement du fin février 2011, qui a permis, durant le printemps arabe, quelques avancées démocratiques au Maroc. Je vous lis, et après j'ai un autre article sur le même sujet de La Croix. L'impératrice Sissi dit « On a clairement les mêmes méthodes qu'en France. Nos jeunes font des études, ils n'ont rien. » Je sais, le système éducatif marocain, j'ai eu l'occasion de lire quelques papiers là-dessus, est jugé excellent, voilà, et d'un très très bon niveau. D'ailleurs, dans les grandes écoles françaises, notamment d'ingénieurs, vous avez de nombreux étudiants qui viennent issus de ces filières d'excellence. Ah, Sugar me le confirme, de prépa marocaine, tout à fait. Avec un système de détection, oui, notamment à Polytechnique, avec un système de détection au Maroc qui est assez poussé. Des étudiants les plus brillants. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire, je remonte les deux chats. C'est dommage, ça dépeuple le Maroc de ses pépites. Oui, ça pose une vraie question. Alors en France aussi, je vous ai pas lu un article, mais il y a quelques jours, j'ai lu un papier passionnant sur le nombre de jeunes Français. Qui partent, qui sont partis ou qui ont le projet de partir, travailler à l'étranger, pour X raisons, et vous avez des voix qui s'élèvent en France, qui commencent à s'élever en France en disant waouh, la perte que c'est pour nous, quoi. Donc le Maroc n'est pas seul concerné, quoi. Bonjour Samuel, que fais-tu sur TikTok, me demande Bob Dylan. Bah, je sais pas. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et du coup, je me suis dit que cette revue de presse que je proposais sur Twitch depuis 5 ans, j'allais la faire aussi ici. Mais je trouve ça intéressant. Merci beaucoup à Agatox, tu régales, merci pour ton message. Alors, j'ai un deuxième article sur le même sujet, donc de La Croix. Hein. Merci, Major Phoenix. La fronde de la jeunesse marocaine vive au drame. T'as pas l'air inspiré par le sujet, ça ? Ben, moi, je trouve ça passionnant, en vrai. Voilà. Après, je peux me mettre à poil et faire l'hélicoptère avec mon zizi, si tu veux, pour montrer mon enthousiasme par rapport au sujet, mais en vrai, je trouve ça vraiment passionnant. En plus, le Maroc, c'est un pays que je connais un petit peu, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ceux qui disent oui, c'est non. Partie de revendication sur la qualité des services publics, la colère sociale a pris un tour plus radical parmi une frange de protestataires, entraînant la mort de 3 personnes en périphérie d'Agadir, fief électoral du Premier ministre Aziz Akhannouch. Alors lisons cet article, mais uniquement les informations qu'on n'avait pas dans le Parisien, on ne va pas redire les mêmes choses. Donc Gen Z 212, maintenant on sait pourquoi. Hein, voilà. Le mouvement s'est auto-baptisé Gen Z 212, s'inscrivant pleinement dans la vague de contestation mondiale de la génération Z, vue, je vous le disais tout à l'heure, à Madagascar, aux Philippines, au Népal, notamment, avec l'indicateur téléphonique du Maroc, le 212. Alors, on disait, il n'y a pas de figure de gens mis en avant par le mouvement. Pourquoi ? Les manifestants ont tiré les leçons des mobilisations précédentes. Plus question de faire émerger une figure comme auparavant qui avait mené à l'arrestation des cadres. Mohamed Ezouak, directeur du site d'information Ya Bilali, qui assure une couverture importante de ces tensions sociales, y voit la marque d'une génération exaspérée, qui ne trouve pas sa place. La situation s'est dégradée depuis un moment avec le Covid et l'inflation due à la guerre en Ukraine. Cela contraste de manière intenable avec une communication gouvernementale très marketing qui vend l'image d'un pays qui attire les investisseurs, hein, qui construit de superbes stades. Hein, un message politique qui est « tout va bien au Maroc ». Quoi. Le spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeren, replace les événements sur un temps plus long. La colère récurrente au Maroc s'est déjà exprimée. En 65, en 83, en 90, puis 2011, on la voit réapparaître au bout de 7 années de sécheresse, d'une crise agricole très sévère dans le pays, dans un contexte où le taux de chômage de la jeunesse diplômée, autour de 30%, ne diffère toujours pas de la moyenne nationale. Cette génération qui est très connectée, quel que soit le niveau social, voit bien ce qu'elle n'a pas, en comparant avec l'Europe, par exemple. Donc là, ça revient sur les incidents qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, notamment les appels à la démission du Premier ministre Aziz Akhannouche. La Croix écrit « Le dirigeant qui ne s'est toujours pas exprimé, on parle du Premier ministre, aurait un bilan à défendre, revalorisation du salaire minimum et des pensions de retraite au Maroc. Taux de scolarisation qui ont augmenté en zone rurale, même si la qualité de l'enseignement fait débat. Des efforts ont été faits, mais l'exigence des citoyens a été rehaussée. Ah, c'est rehaussé. Ok. On n'accepte plus qu'une prise en charge à l'hôpital ne soit possible qu'à la condition de ramener son propre matériel médical ou que la seule chance d'avoir une éducation convenable soit de mettre son enfant dans le privé. Podcast sur toutes les plateformes de podcast audio, Enzo, toutes. La grogne arrive aussi dans un contexte de cyber-révélation cet été du groupe de hackers Jabarout DZ sur les richesses de la classe dirigeante. Des marches spontanées avaient déjà eu lieu dans le Haut Atlas pour l'accès à l'eau, poussant le roi Mohamed VI à manifester son refus d'un Maroc à deux vitesses lors de son discours du trône en juillet dernier. Une prise de parole forte par le souverain, mais qui, aux yeux des Marocains, n'a pas été suivi dans les actes par le gouvernement. Ah, c'est Akhannouche, on dit. C'est pas Akhannouche. Ok, merci. Enzo Berno me dit sur TikTok, merci beaucoup Samuel, tu devrais faire des lives sur Twitch, ça marcherait bien à mon avis. Je suis pas sûr. Twitch. Je sais pas. Moi, je me suis beaucoup penché sur cette plateforme. À mon avis, ça marchera jamais. Beaucoup de gens qui regardent des gens jouer à des jeux vidéo. Je comprends pas du tout ce truc. Pas sûr. C'est pas sûr. Tu devrais te lancer sur France 3 aussi. Non, pas trop. La télé, je n'y crois pas non plus. Je vous lis. Sur Arte, tu étais très bien, me dit Raël. Alors ça me fait plaisir. D'autant que j'ai jamais travaillé sur Arte. Mais ça me touche. Merci beaucoup. Dans Gladiator aussi, tu étais au top. Merci. Alors, Jaws, El Maghrebi, je t'invite à arrêter de spammer cette phrase qui est pourtant intéressante. Samuel, la situation marocaine est plus complexe que ça. Parce que je lis tous les messages. Je vous vois tous. Je lis très vite. Donc c'est la troisième fois que je vois ton message. Ce qui est plutôt que de le spammer, bah explique-nous pourquoi elle est plus compliquée, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ton avis, ton analyse. J'attends ton message et pas pour rire. Si tu te proposes le journal quotidien d'Arte comme présentateur, t'acceptes? Non, je veux plus faire de télé. Mais je le dis sérieusement, hein, si c'est plus complexe, ça m'intéresse. Bien sûr qu'il y a, que je me rappelle. J'adore le message de notre ami, là. Mais c'est sans troller, ça m'intéresse, quoi. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, au Linux. La CAN. Bon, j'attends le message de notre ami et j'enchaîne avec le sujet. Mais je surveille. Si vous voyez le message de... Où es-tu? Ah zut. De Jowz El Maghribi. Ah! Il faut savoir que nous sommes dans une période de transition assez fragile. Mais ça, j'en ai bien conscience. Mais tu vois, c'est intéressant. J'en ai bien conscience. C'est un pays fascinant, le Maroc. Là, on est sur des articles assez courts, sur une actualité assez dense, mais c'est pas en deux petits articles comme ça qu'on va comprendre profondément les racines de ce qui se passe et de comprendre toute la complexité d'un pays comme le Maroc. Il faudrait des heures et des heures de lecture et de débat. J'en suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, c'est un pays que je trouve fascinant. Mais on aura l'occasion d'en parler, hein. Mais peut-être que justement, dans les prochains jours, je vais trouver des articles un petit peu de fond comme ça sur le sujet. On parle de la flottille pour Gaza? Ok? On est à 1h51 de live. Let's go. Je vous mets le TC. 1h51. 1h51, comme ça, en replay, vous savez exactement où c'est. Je vous mets la petite flèche aussi. Pour savoir où vous en êtes, pareil pour TikTok, où est-ce que vous êtes sommaire? Il y a Bébernès qui me dit: on remercie la technologie qui permet d'analyser tous les streams du monde et quand les mots choisis sont prononcés, ça attire des trolls chelous. Bah, et s'ils subent, on s'en fout, hein. Mais souvent, ils subent pas, en plus. Ouais. C'est ça le problème. Alors, on en est où de la flottille? Israël en toute impunité après l'arraisonnement de leurs bateaux. Est-ce qu'il reste quelques bateaux de la flottille qui n'ont pas été arraisonnés? Parce qu'hier, il en restait quelques-uns. Je suis pas au GP. Non, Kylian, on en parlera tout à l'heure. Je suis pas trop hypé par le GP. Après l'arraisonnement de leurs bateaux, les participants à la flottille ont été placés en détention. À Gaza, l'entreprise d'anéantissement se poursuit. Est-ce qu'il reste des bateaux? Il reste un bateau, me dit El Mehdi. Un bateau, me dit Pictaros. Il y a peut-être un bateau. Okay. Je crois qu'il y a une appli pour suivre les bateaux, hein, c'est ça? Fafa me dit qu'ils ont tous été arrêtés. Bon, on avait 40-50 bateaux. Alors lisons l'article de l'UMA. La lutte pour libérer les membres de la flottille doit s'intensifier après l'arraisonnement des bateaux à destination de Gaza. Tel Aviv détient et interroge illégalement les équipages. Oui, évidemment que c'est illégal. La formidable solidarité populaire avec les Palestiniens ne trouve que peu d'écho chez les dirigeants du monde. Rappelons que ces bateaux ont été arraisonnés, non pas dans les eaux territoriales israéliennes, mais dans les eaux internationales. Rien de tout ça n'est légal. Mais bon, c'est pas la première fois que ce gouvernement nous expliquera qu'il n'en a rien à faire avec la légalité. Il suffit de voir son encouragement aux colonies juives illégales au regard du droit international, par exemple en Cisjordanie. Continuez, continuez, écrit l'UMA ce matin. Pour rappeler l'illégalité et l'impunité du gouvernement israélien. Alors que les premiers et principaux bateaux de la flottille Global Summit ont été attaqués mercredi soir par Tel Aviv, les plus petites embarcations continuaient jeudi après-midi de voguer vers les côtes gazaouies. Est-ce qu'il resterait un ou deux bateaux? Jeudi midi, le Mikeno, l'un des bateaux de la flottille, parvenait même à pénétrer dans les eaux territoriales palestiniennes. C'était l'objectif, hein, qui est un objectif symbolique. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ces bateaux qui sont des petits bateaux. C'est pas pour. Même s'ils ont quelques trucs dans leur cale, c'est absolument pas la cargaison qui est intéressante. Il ne s'agit pas de. Les besoins humanitaires de la population palestinienne de Gaza sont tellement gigantesques. Hein, tellement gigantesques. Que ce n'est pas ce que transportent ces bateaux qui va les secourir. C'est un blocus visant à rompre de façon symbolique ce blocus maritime imposé par Israël à Gaza. En plus d'intervenir illégalement dans les eaux internationales, la marine israélienne a brouillé les transmissions de la quarantaine de bateaux encore présents. Nous sommes donc sans nouvelles de notre collègue Émilien Urbac, qui est un journaliste de l'Humanité, hein, qui a embarqué sur un des bateaux, le Miamia, le 31 août. Donc sans nouvelles depuis 3h du matin ce jeudi. S'il vous plaît, interpellez les autorités françaises pour qu'elles nous sortent de là rapidement. Merci beaucoup, a demandé ce journaliste de l'UMA dans une vidéo. Le gouvernement de Netanyahou ne respecte ni les conventions de Genève, ni la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni la liberté de la presse, empêchant depuis 2 ans les journalistes d'accéder à la bande de Gaza ravagée. Vous savez que Israël interdit à tout journaliste étranger de se rendre dans la bande de Gaza. Et par ailleurs, frappe sciemment et volontairement les journalistes palestiniens qui s'y trouvent. Interdire l'entrée des journalistes à Gaza, c'est refuser au peuple du monde le droit de savoir, affirme Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Anthony Bélanger, c'est un ancien journaliste du Courrier international. Très intéressant. Un très bon journaliste. Le droit international humanitaire protège la présence des journalistes dans les zones de conflit et les empêche d'accéder au terrain et ça constitue une atteinte au droit à la formation. Ouais, à minima. Ouais. Et de rappeler le courage de nos consoeurs et confrères gazaouis, les seuls à pouvoir nous tenir au courant de l'horreur subie ces 2 dernières années. Désormais, les activistes, médecins, élus et journalistes du monde entier qui ont été capturés par Tel Aviv, qui étaient sur les bateaux, sont conduits vers les côtes israéliennes et interrogés au port d'Ashod, non loin de la frontière gazaoui. Merci Jay, merci Drelnar, merci Maxou, merci Zazel, merci Nevae, merci de la Mumzette, vous êtes incroyables. Merci Speed Roulette, merci Abdella, merci Rema. Selon le ministère des Affaires étrangères, ils se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer, c'est ce que dit Israël. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé. Mais, se demande l'UMA, comment croire un gouvernement autoritaire et génocidaire? Car quand dans l'enclave palestinienne occupée, les bombardements israéliens se sont poursuivis, principalement à Deir al-Abba et sur la ville de Gaza, visant plusieurs hôpitaux. Au moins 20 personnes tuées, d'autres blessées, et la veille, 77 Palestiniens tués, 222 blessés, selon le ministère de la Santé. Donc vous avez donc le directeur de l'Humanité qui a écrit à Emmanuel Macron à ce propos. La secrétaire générale de la CGT également. C'est Sophie Binet, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Sophie Binet. Autres quatre coins de la planète, les soutiens du peuple palestinien ont suivi avec attention les dernières heures de cette flottille. Un mois après qu'elle est partie de Barcelone pour tenter de briser le blocus inhumain qu'Israël impose à Gaza, écrit l'UMA. À Paris, Berlin, Rome, Florence, Barcelone, Madrid, Londres, Athènes, Stockholm, Mexico, Buenos Aires et tant d'autres villes, des rassemblements ont eu lieu mercredi soir et jeudi pour encourager les passagers de la flottille et réclamer leur libération. Anthony Bélanger, donc le journaliste qu'on a évoqué tout à l'heure, a déclaré à l'UMA, compte tenu du fait que ni les grandes puissances ni les Nations Unies ne sont capables de faire respecter le droit international, l'unique solution est la pression sociale et syndicale, comme le font aujourd'hui les militants associatifs du monde entier sur les flottilles, bien entendu sur les bateaux, c'est le mouvement qui a eu lieu, mais aussi et surtout dans la rue, dans les grandes capitales mondiales, comme on l'a vu hier soir de façon spontanée, il y a encore de l'espoir lorsqu'on voit tout ça. Voilà. Donc voilà pour les dernières infos sur la flottille. Ce qui m'intéressera aussi dans les jours prochains, bien sûr, mais rien de nouveau pour l'instant, c'est que devient le plan de paix de Trump pour Gaza, et avec notamment la réponse du Hamas qui est attendue, plan qui a le mérite d'exister, mais qui est aussi décevant à certains titres. Je vous lis. Merci beaucoup, Gougou Gak. Non, ça va, je ne te connais que très peu, me dit Dudu le 4, Dudu là. Tu es de quel bord politique? Je suis du bord politique Samuel Etienne. À tel point que je vais me présenter en 2027 et gagner cette élection. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors quand je lis dans le chat un message de... deux points, ouvrez les guillemets. Nous savons que la justice est divine et nous n'attendons rien des politiciens corrompus. Justice divine, ça fatigue. Donc, je te dis, pour le coup, je te dis à demain, là. Pourquoi le plan de paix est décevant? Alors, d'abord, il a le mérite d'exister. Et le plan de paix de Trump, je réponds à la question d'Eleanor. Je réponds rapidement parce que je vous lis pas l'article ce matin sur le plan de paix et c'est un sujet super important. Il a le mérite d'exister. Le plan de paix de Trump par rapport à ce qu'il proposait avant pour Gaza, qui était que la Riviera, une côte d'Azur, hein, on vire tous les Palestiniens, on les met dans d'autres pays, on construit des super hôtels et des villas pour les riches. Ce plan de paix de Gaza par rapport à ce que Trump proposait avant, c'est topissime. Donc il a le mérite d'exister. C'est aussi le seul plan de paix proposé aujourd'hui, qui semble recueillir un soutien assez large de la communauté internationale, notamment des pays arabes de la région, mais il est jugé imparfait, notamment officiellement par la diplomatie française, quand elle dit par exemple que ce plan ne reconnaît pas expressément l'État palestinien, en disant que le plan de Trump, il dit qu'il reconnaît l'aspiration du peuple palestinien à un État, mais le plan ne reconnaît pas l'État palestinien. Donc il a plein d'aspects intéressants, le cessez-le-feu, la remise des otages morts ou vivants du Hamas aux Israéliens, un plan humanitaire pour la population de Gaza, une autorité à déterminer pour accompagner les prochains mois, les prochaines années de Gaza, etc. Il y a plein de choses intéressantes, mais évidemment, il ne répond pas à toutes les questions. Comment pourrait-il le faire, d'ailleurs? Voilà. Et puis surtout, il dépend de la bonne volonté des acteurs du conflit, voilà, d'Israël, du gouvernement israélien Netanyahou, c'est pas tout à fait la même chose, de Netanyahou, allié à l'extrême droite au pouvoir, du Hamas, et puis évidemment de tous les pays qui soutiendront ou soutiendront pas cet accord, quoi. Voilà, je résume en quelques secondes un sujet qui mérite 3 heures d'explication. On en a parlé pendant des heures les jours derniers. Je fais juste ce petit rappel sur ce plan et on en reconnaîtra et on en reparlera dans les prochains jours, notamment après la réponse du Hamas. Netanyahou, rêvant d'un rejet du plan par le Hamas, pour pouvoir dire, vous voyez, le partisan de la paix, c'est moi. Waouh. Voilà. Le Hamas a rejeté le plan, donc c'est bon. Je poursuis ce que lui appelle sa politique d'éradication du Hamas sur Gaza, en tapant des milliers de civils innocents. Bon, je vous lis un petit peu sur ce sujet dont on parle ici pour ceux qui s'intéressent tous les jours. Le Proche-Orient, on en parle tous les jours ici. Et John Smith a raison. Même si le plan de Trump est décevant, les États-Unis sont les seuls à pouvoir imposer la paix à Israël. Ouais. En tant qu'allié principal de l'État hébreu. Ouais. Si cela peut déjà faire un cessez-le-feu avec le plan de Trump, c'est le mieux qu'on puisse avoir. C'est mieux que rien. Aucun autre État ne pourra faire mieux techniquement. Ça n'est pas complètement faux, John Smith. Ça n'est pas complètement faux. Une paix ne s'impose pas. Oh que si, Davidou. Et si. Un cessez-le-feu, le fait que Netanyahou donne l'ordre à l'armée israélienne d'arrêter de taper sur et de tuer les Gazaouis, comme ça ne viendra pas de Netanyahou, elle ne peut que s'imposer de l'extérieur, par des pressions, par des sanctions économiques de l'Union européenne qu'elle ne prend pas, par exemple, ou menace du grand allié américain. Bien sûr qu'elle peut s'imposer. Quoi? Tu comptes sur Netanyahou pour dessiner un cessez-le-feu? Netanyahou, il a intérêt à la guerre, c'est ce qu'il fait maintenir au pouvoir. Évidemment que ce cessez-le-feu doit s'imposer de l'extérieur. On en reparlera dans les prochains jours, puisque ce qu'on attend maintenant, c'est la réponse du Hamas à ce plan de paix. Voilà. J'apprends par l'Humanité que demain samedi, on fêtera en France les 80 ans de la Sécu. Un petit peu d'actualité en France. On est à 2h05. Et on va en parler, mais on va parler de la Sécu aux États-Unis. Ou plutôt l'absence de Sécu aux États-Unis, plutôt. Parce que cette sécu si critiquée en France, il y a beaucoup de pays dans le monde qui aimeraient l'avoir. Enfin, beaucoup de populations dans le monde qui aimeraient l'avoir. 2h05. Hop. Tac. États-Unis. Comment c'est la vie sans sécurité sociale? C'est la question que pose l'humain. Je vous modifie le sommaire aussi sur TikTok. Voilà. Alors, lisons. Aux États-Unis, une vie sans sécu. Donc demain, c'est les 80 ans de la sécu en France, quoi. D'Alain écrit dans le chat « Vive la sécu, elle m'a sauvé de mon cancer ». Aux États-Unis, une vie sans sécu. En l'absence de système public, les habitants du pays sont livrés au marché des assurances privées. On va voir qu'il y a un Obamacare, il y a un truc, mais c'est pas la sécu, quoi. Cotisation en hausse, mauvaise couverture, prix des médicaments totalement libres. Se soigner sans se ruiner est une angoisse nationale dans ce pays. Merci encore, Jay. Elle attendait le courrier avec nervosité. On parle d'une Américaine. Elle savait qu'à l'intérieur se trouvait une facture, mais elle en ignorait le montant depuis son installation aux États-Unis. Marie avait appris qu'être malade relevait parfois de la roulette russe, même avec une assurance. Les pro-Poutine dans le chat, ne vous énervez pas. La roulette russe est une expression. Je n'insinue pas ici que Poutine joue un rôle dans la faiblesse de la sécurité sociale aux États-Unis. Calmez-vous. Calmez-vous. C'était le point qu'elle soulevait en premier lorsqu'on l'interrogeait immanquablement sur les différences entre son pays d'adoption et celui dans lequel elle a passé les 25 premières années de sa vie en France. Ah ! Marie est française. Du coup, elle connaît les deux systèmes. Quelques jours plus tôt, saisie d'une nouvelle crise, elle avait appelé une ambulance qui était venue la chercher dans l'école où elle enseigne. Donc elle est enseignante et elle avait conduit dans un hôpital agréé par son assureur. Dans la salle d'attente, la trentenaire avait dû répondre à la question d'une secrétaire. Avez-vous les moyens de payer ? Elle a une crise. Une ambulance vient la chercher. Alors elle vérifie que l'hôpital est agréé par son assureur. Quel bordel ! Et dans la salle d'attente, la secrétaire lui demande « Avez-vous les moyens de payer ?» C'est intéressant. Percluse de douleur, elle avait répondu d'un ton agressif. En France, on lui demandait sa carte vitale et sa carte bleue. Voilà. Quelques heures, une radio et quelques médicaments plus tard, Marie pouvait rentrer chez elle relativement apaisée. L'examen médical n'indiquait aucune gravité. Tout était rassurant, sauf l'addition à venir. L'angoisse s'est transformée en stupéfaction lorsqu'elle a reçu la facture. 1500 balles. 1 500 $. Bon, rappelons qu'elle n'a pas été hospitalisée. Hein. Elle avait mal, ambulance, examen, 1 500 boules. Eh ben ouais. Le plan d'assurance ne couvrait pas ce genre d'examen. Voilà. Aux États-Unis, en l'absence de Sécu ou de NHS, National Health System, c'est l'inégalité à tous les étages. Les deux tiers des États-Unis sont couverts par une assurance privée, fournie par leur employeur. Donc rappelons cette phrase qui est importante. Les deux tiers des Américains sont couverts par une assurance privée fournie par leur employeur. L'étendue de la couverture, bah, elle varie. Elle dépend de la capacité de tractation des syndicats, quand il y en a, lors de la renégociation des conventions collectives. Voilà. Ou, le plus souvent, du seul bon vouloir des employeurs. Donc là, ta sécu dépend de ton employeur. Généralement, les salariés ont droit à un plan de base que eux peuvent améliorer en payant des suppléments. Ben, Lazarette me donne un exemple, hein, les États-Unis, un accouchement, la péridurale, 2 000 $. On peut faire sans, hein? Quel enfer! Voilà, donc plan de base qu'ils peuvent améliorer. Marie et Steve, son mari, ont opté pour la mise à niveau 2, 230 $ par mois, renonçant en croisant les doigts à la couverture totale, ça leur a coûté 800 $ mensuels. Soigner une carie, 150 $. Voilà. Prise de sang, c'est payant. Dermato, 250 $. Chaque Américain est confronté à ce casse-tête, comment se soigner sans se ruiner. L'Obamacare, voté en 2010, parce qu'il y a quand même un Obamacare, n'a pas changé cette dynamique fondamentale. Barack Obama avait mené campagne sur une proposition de création d'un système public financé par les cotisations sociales, patronales et salariales. Ça ressemble un peu à notre système. En concurrence avec les assureurs privés. Une fois arrivé à la Maison Blanche, il est entré en négociation avec les républicains opposés à ce principe, puisque Trump le vit en ce moment, même avec une majorité. Mais il faut parfois composer avec l'opposition. Et donc un compromis avait été trouvé. Merci Skykov pour ton soutien. Avec les républicains, compromis bancal qui en est ressorti avec une double obligation pour les compagnies privées, celle d'assurer tout le monde, là où avant elles refusaient les personnes aux conditions préexistantes avec antécédents familiaux, par exemple, bah non, je t'assure pas, diabète, ah bah non, diabète, non. Hein? Donc, obligation pour les compagnies privées d'assurer tout le monde, là où avant elles refusaient plein de gens, et pour les américains, obligation de contracter une assurance sous peine d'amende. La gauche a dénoncé le renoncement à un engagement de campagne et la droite une entrave aux libertés individuelles. Si le nombre de non-assurés a baissé aux États-Unis de 16% de la population à 8%, le demeure systémique des mal assumés demeure. Alors, moi, je trouve qu'on arrive à l'élément le plus intéressant parce que depuis le début, je vois dans des messages dans le chat que je n'ignore pas, mais que j'attendais de lire, d'arriver à ce passage-là. Les gens qui me disent « Ah oui, mais c'est pas pareil, les salaires sont meilleurs aux États-Unis ». Donc, des dollars, mais c'est OK. Voilà. Ça dépend de ton salaire, ça dépend de ton entreprise, ça dépend aussi si tu es pas trop malade, en fait. En fait, si tu es pas malade, bah, tout va bien. Si tu es un petit peu malade de temps en temps, ça va. Puis si jamais tu as la malchance d'être très malade, et là, même avec un bon salaire, c'est compliqué. Néfaste 62 dans le chat. J'ai récemment été hospitalisé en Californie après un crash à vélo. 30 heures à l'hôpital, des scans, des soins, je dois payer 60 000 $ et malheureusement je suis pas assuré. Néfaste, c'est impossible. Néfaste. 60 000 $ pour 30 heures? Non. Je veux bien que le système soit dingue, mais. C'est possible, ça? C'est possible ou pas? Parce que là, je me... C'est possible, ça? C'est énorme. C'est possible, un scanner, c'est super cher. Waouh. Ah ouais, les scanners. La crampe me dit qu'une opération du cœur au State, ça coûte 800 000 $. Une patiente de mon service me dit à sa prédo, donc, qui est peut-être soignant en France, qui est peut-être médecin, avait dû être hospitalisée trois semaines avant d'être rapatriée en réa chez nous, en France, 110 000 euros de dette. Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ce pays? Alors, néfaste précise, la chute à vélo là. 150 000 euros bruts. Il y avait des réductions, c'est tombé à 60 000. Voilà. Il me dit, oui, un scanner, c'est 79 000 balles.
Bon. OK.
Comme le dit Led Anao, le rêve américain. Et attendez, j'en viens à la partie de l'article qui me semble le plus intéressant. Les États-Unis consacrent pourtant 17% de leur PIB, de leur produit intérieur brut, pour résumer la richesse qui est produite au cours d'une année dans un pays, les États-Unis consacrent 17% de leur PIB aux dépenses de santé, contre 12% pour la France et 11% pour le Royaume-Uni. Les Américains dépensent plus que nous pour leur système de santé. Hein? Où part tout cet argent ? S'interroge l'UMA. Selon le site d'investigation en ligne The Lever, depuis 2010, les profits des 5 plus grosses compagnies d'assurance ont augmenté de 230%. L'absence de régulateur public permet aux laboratoires de pratiquer des prix sans quasiment aucune limite. Comme le dit Ludo, ben oui, nous on régule, mais pas eux. Bernie Sanders prend régulièrement l'exemple de l'insuline qui coûte 10 fois plus cher aux États-Unis qu'au Canada. Enfin, la complexité du système conduit à des usines à gaz bureaucratiques qu'il faut financer. Une structure unique permettrait à des économies d'échelle de nature à alléger le fardeau financier. Selon les dernières données de la Kaiser Foundation Family, la cotisation moyenne annuelle pour une famille se situe à près de 26 000 dollars. C'est le système de santé, hein. C'est pas les remboursements, Apollo. C'est le système de santé. J'ai été très clair sur le. Les Américains consacrent une part de leur PIB à leur système de santé, totalement inégalitaire, hyper stressant, 17%, et nous, 12%. Voilà. Parmi les puissances nées de la révolution industrielle, le système de santé américain demeure à la fois le plus coûteux et le plus inefficace en termes d'espérance de vie. Parce que certains pourraient dire, ouais, mais du coup, ils sont bien. Tu vois ? En termes d'espérance de vie, 79 ans, les États-Unis sont plus alignés sur les pays en développement que les pays développés, qui sont tous au-dessus de 80 ans. Pourtant, la création d'un système public reste un serpent de mer de la vie politique aux States. Le premier président à avoir tenté de l'instaurer fut Franklin Delano Roosevelt, pendant le New Deal, c'était il y a super longtemps. Le démocrate a réussi à imposer la reconnaissance du fait syndical ainsi qu'un système de retraite et d'indemnisation du chômage, mais a échoué à mettre en place à l'époque une couverture maladie universelle. La faute à la branche sudiste de sa coalition qui estimait qu'elle profiterait trop aux Noirs. L'un de ses successeurs, Lyndon B. Johnson, a ouvert une brèche, mais pas plus, dans le monopole privé avec la création de deux programmes fédéraux publics. Merci Frank Miller pour ce raid. Merci mon ami. Medicare et Medicaid. Medicare pour les plus de 65 ans. T'as un programme santé pour les plus de 65 ans en France. Quand tu passes 65 ans aux États-Unis. Quand tu passes 65 ans aux États-Unis, t'as un truc qui vient te soutenir plus, quoi. Et Medicaid pour les familles à faible revenu. Depuis qu'ils ont passé le cap des 65 ans, Jan et Jerry sont couverts par le Medicare. Hein. Attends, Lazaret, c'est intéressant. Waouh ! Lazaret nous dit un truc intéressant. Les États-Unis se font pigeonner, nous dis-tu, avec un système de santé privatisé et tenu par les compagnies d'assurance. Exemple, tu as une assurance aux États-Unis, tu consultes un médecin pour une maladie, le médecin te dit il faut faire ça et prendre tel médicament. La compagnie d'assurance te force à consulter un autre médecin agréé par la compagnie pour confirmer le diagnostic. Et si l'opération et les médicaments sont bien ce qu'il faut, tu payes les deux médecins avant même d'avoir les médocs et de programmer l'opération. Oh, oh, oh mes champions! Donc Bernie Sanders, par exemple, voudrait étendre ce système Medicare, donc pour les plus de 65 ans, à toute la population. Medicare for all. Proposition plébiscitée par les Américains, 60% contre 27%, selon un sondage réalisé par The Economist et YouGov en juillet 2025, mais ignoré par les élus du Congrès. Voilà. Vachement intéressant cet article de l'UMA. Je vous lis. C'est Samuel, as-tu vu qu'en Floride, ils viennent d'autoriser la visibilité des armes sur soi? C'est totalement délirant, on se croirait vraiment dans GTA. J'avais pas vu au Charou. Merci de l'info. C'est intéressant, très intéressant. Non, Athènes, je vais pas passer au Championship Valorant de Paris, là, j'ai un week-end de fou. Ah, je lis un ou deux messages et on enchaîne. Merci beaucoup à Flyers pour le soutien. Merci, vous êtes top. T'en penses quoi du mode replay sur Valo? Ah, je ne l'ai pas utilisé encore. Ok. Et au GP? Ah non, GP, non. Alors ça, non, GP, non. On va en parler, le GP. Voilà. Bah, je comprends qu'on puisse être hypé par le GP. J'avoue que je ne le suis pas du tout. Moi, je vais streamer à la maison ce week-end. Le GP, on m'y a invité. Non. Mais peut-être que c'est stop le GP. Hein, on va en parler. Alors. On va passer au sujet d'après. Le cornu, stop ou encore, passionnant, fascinant. Pas du tout, hyper chiant, mais c'est important. Ah là là là, 2h20, let's go. Stop ou encore. Il va peut-être être arrêté avant même d'avoir commencé, Sébastien, là. Sébastien Le Cornu, pas Patrick Sébastien. Hein. On n'est pas au camping. 2h20. À faire tourner les serviettes et quoi d'autre? Et que sais-je encore? Hop, Le Cornu. Stop ou encore? Attendez, je vous mets ça propre sur TikTok également, comme ça vous savez où on en est. Tchou, Le Cornu, stop ou encore? Le Cornu, c'est le Premier ministre, hein, dont on attend le gouvernement, le programme de gouvernement, le budget, voilà, et de savoir s'il va rester quelques semaines, quelques mois ou pas. Le quitte ou double de Le Cornu. Après d'ultimes consultations ce vendredi, le Premier ministre doit dévoiler son gouvernement ce week-end. Bon, a priori, ce week-end, on devrait. C'est peut-être l'une des fois où il a fallu attendre le plus longtemps sous la Ve République pour connaître le gouvernement d'un Premier ministre. Donc on devrait le connaître ce week-end. Matignon met sur la table plusieurs mesures fiscales pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. Petit coup d'œil à la gauche, petit clin d'œil à la gauche. Hein, pour éviter une motion de censure assez rapide. Est-ce que ce sera suffisant? Rien n'est moins sûr. Merci Madeleine 27. Dans une interview aux Échos, Louis Gallois. Bon, ça, on s'en fiche. Pardon, excusez-moi, c'est pas lié au sujet. Voilà le papier. Sébastien Lecornu se dévoile sans convaincre sur le pouvoir d'achat. C'est la une des Échos ce matin. Matignon a donc présenté hier matin plusieurs pistes que le Premier ministre Le Cornu étudie pour améliorer le pouvoir d'achat. Merci Bruno Univers Simu, comment vas-tu mon ami? T'as simulé ce matin? Ça a simulé fort ce matin? Ça a simulé quoi? Voilà. Sébastien Le Cornu étudie pour améliorer le pouvoir d'achat principalement des salariés. Vous attendez pas à des trucs de fou, hein? Ben oui, Bruno il simule. Tous les jours. Ben il faut simuler parfois, bien sûr, Sugar. Ben oui. Il faut, c'est important. Demandez à Bruno. Merci Agatox. Bruno, t'as simulé quoi ce matin? Comme jeu. Comme jeu! T'as pas simulé? Je t'attends pour simuler? Je sais, un jour, Bruno, je te l'ai déjà dit et je le redis, un jour, avec Bruno, on va simuler. Alors, lisons ce papier. Est-ce que les négociations politiques autour du budget qui avancent, est-ce que c'est les négociations politiques autour du budget qui avancent ou est-ce que c'est le Premier ministre qui dévoile son jeu dans la précipitation? Bref, hier, à la veille des rencontres d'aujourd'hui de Le Cornu avec le PS et avec le RN, l'entourage de le Premier ministre a laissé fuiter quatre pistes de soutien au pouvoir d'achat auquel réfléchirait le Premier ministre. Vous allez voir, c'est pas foufou. Voilà. Déjà, l'enveloppe. Matignon compte mobiliser une enveloppe d'1,5 milliard et pas plus en guise d'amélioration du pouvoir d'achat des Français. Voilà les options à l'étude. Favoriser les heures supplémentaires. Voilà. On travaille sur une défiscalisation, un allègement des charges sociales sur les heures sup. Actuellement, elles bénéficient d'une exonération de cotisations retraite dans la limite de 11% du salaire et d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Je vous passe les détails. Selon les infos des Échos, Matignon n'envisage pas de modifier ce seuil, mais de diminuer le taux de CSG appliqué à ses heures sup. Donc on parle d'une baisse du taux de CSG sur les heures sup. Ça va pas, hein. Deuxième piste. Alléger ceux qui rêvent du grand soir fiscal, c'est pas maintenant. Hein. Alléger l'impôt sur le revenu des couples modestes. Hein. On étudierait une baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés au SMIC. Alors les Échos disent, c'est dommage parce que ces ménages actuellement, ils sont pas imposables. Avec de la décote de barème, voilà. Arrobas dit, mais ils sont déjà pas imposables. Exactement. Donc la piste, c'est de baisser les impôts des gens qui n'en payent pas. C'est pas mal, ça. Voilà. Donc du coup, ils se sont rendus compte à Matignon qu'ils disaient une connerie. Ils disaient, ah, non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Ce serait juste les gens juste au-dessus. Voilà. En fait, voilà, il a fait une petite erreur. Voilà. Mathématiques dit, pour être honnête sur ce sujet, il a fait une erreur et il l'a corrigé après. Voilà. Non, on plaisante. Mais voilà, ce sera pour juste les gens au-dessus. Voilà. Ce sera pour les couples qui toucheront légèrement plus de 2 SMIC. Hein. Enfin, c'est pas non plus... voilà. Enfin, on parle d'une baisse de l'ardoise fiscale pour ces couples de 200 à 300 euros par an. Et il y a des ménages pour qui 200 à 300 euros par an, ben, c'est quelque chose. Défiscaliser à nouveau les primes Macron. Imaginez au moment de la crise des gilets jaunes, les primes Macron étaient à l'origine totalement exonérées d'impôts et de cotisations sociales pour les salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC. Mais depuis 2 ans, le régime de faveur a été revu à la baisse. Voilà. Ces primes sont, depuis 2024, soumises à la CSG et à l'IR. Voilà. Et bon, l'idée serait de revenir en arrière et de, à nouveau, défiscaliser ces primes Macron. Vous l'avez vu, c'est pas... Okay. Encourager les dons familiaux. Voilà. Actuellement, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans droit de donation tous les 15 ans. Voilà. Pour les petits-enfants, c'est un abattement valable que jusqu'à 31 865 euros. Encourager ces flux faisait partie du programme de Macron 2022, mais il n'a pas trop mis en œuvre, quoi. Il y a eu un petit truc sur l'immobilier, mais qui n'a pas été très important. Donc voilà, est-ce que... Non, c'est plutôt pour les ménages aisés, hein, d'encourager les dons familiaux. C'est tous les 15 ans. Mix. Tous les 15 ans. Ah, une cinquième mesure dans la Manche. Ah, on va arriver, hein. Selon les informations Matignon, une cinquième mesure en magasin pour soutenir le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va rêver ? Il s'agirait de verser une bonification individuelle à tous les bénéficiaires de la prime d'activité et non plus uniquement à ceux dont les revenus professionnels dépassent 0,5 fois le SMIC. Bon. Ok. Pardon, hein. Rien de foufou. Donc, les Échos se posent la question. Reste à savoir si cela suffira à séduire le PS, qui proposait 6 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français, à travers une baisse de la CSG sur les salaires, en tout cas compris entre 1 et 1,4 fois le SMIC. C'est loin d'être gagné. Les propositions de Le Cornu sont très en deçà de nos attentes, a dit... comment s'appelle-t-il ? Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, avant d'ajouter « Aucune mesure rendue publique n'est de nature à infléchir notre propre position. Voilà. » Sans compter que Le Cornu a dit non à la taxe Zuckmann, 2% de prélèvement annuel sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Donc le Cornu a opposé une fin de non-recevoir aux socialistes. Donc du coup, est-ce que le gouvernement Le Cornu va pouvoir être soutenu, en tout cas non censuré par les socialistes dans les prochaines semaines? C'est mal parti. On en saura un peu plus ce week-end puisqu'ils se rencontrent aujourd'hui. Voilà. La réunion de la dernière chance avec le PS. Voilà. Vous avez les infos. C'est passionnant, hein? Voilà, ce n'est que l'illustration de la crise politique que nous vivons en ce moment. Un exécutif, un président, un premier ministre, mais qui n'a pas de majorité à l'Assemblée pour mettre en œuvre ces réformes. Alors, c'est très juste ce que dit... Attends, j'ai vu ton message. Attends. Attends, je te retrouve, je t'ai perdu sur le RN. Bon, bref, quelqu'un disait, c'était très juste. Ah, mais tant que le RN ne censure pas, le gouvernement tiendra, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'un gouvernement comme ça, macroniste, on va le définir comme ça, qui ne tient que parce que le Rassemblement National ne le censure pas, ça fait un peu désordre, quoi. C'est pour ça qu'ils veulent absolument le soutien des socialistes. Je vous lis. Waouh! Je ne sais pas si tu as vu, au Brésil, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter l'imposition sur tous les ménages moyens, me dit Sennon, et taxer leur grande fortune de 10%. 10%? Ça pourrait être un bon exemple pour nous aussi. Waouh! C'est sûr, ça paraît gigantesque. Alors, je sais que c'est le président Lula qui est au pouvoir quand même, mais. Brésil? 10%? Je vais aller. Oh, c'est vachement intéressant. Oui, je vois des sujets, je vois des sujets. Mais oui. Les Échos, le Brésil adopte une généreuse réforme de l'impôt sur le revenu. Bon, on va lire ça tout de suite. Ah non, c'est sur abonnement, mais c'est pas grave, je suis abonné aux Échos, mais on peut en trouver un autre. Il faut que je me connecte, j'ai la flemme. Le Figaro. Attends, on va lire ça. Le Brésil n'est pas la France. Ah bon? C'est pas le même pays? Il y a Nojo qui dit le Brésil n'est pas la France. Bah, je pensais que c'était pareil, moi. C'est pas le même pays. Le Brasilia, c'est en France, quand même, non? Rio, c'est chez nous. Non? Rio, c'est chez nous, non? Non. Salvador de Bahia, c'est juste en dessous de Créteil, je crois, non? Je suis nul en géo. Je suis tellement nul en géographie. Tellement nul. Allons lire l'article du Figaro là-dessus. Brésil, les députés approuvent une exonération fiscale pour les classes moyennes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Chambre basse du Parlement brésilien a approuvé mercredi une exonération d'impôt sur le revenu. Exonération d'impôt sur le revenu visant les classes moyennes, posée par le gouvernement de Lula, malgré l'opposition des marchés. Le texte approuvé par les députés élargit la tranche d'exonération de l'impôt sur le revenu aux personnes percevant moins de 5 000 réaux mensuels. Réal, 800 euros. Donc c'est pour les classes moyennes, quoi. 16 millions de Brésiliens ne paieront pas l'impôt en 2026 si la proposition est adoptée. Mais a priori, elle est adoptée. Voilà. Pour compenser la baisse des recettes, le projet prévoit d'augmenter les impôts pour les personnes gagnant plus de 50 000 réaux par mois, 7 995. C'est pas les mêmes salaires non plus, hein. Donc c'est pas que les riches, hein, c'est les salariés à l'aise, quoi. Les aisés. 50 000 euros par mois, 7 995 euros, même si le coût de la vie n'est pas le même, on n'est pas sur les millionnaires non plus, hein. Parce que tu disais, quelqu'un disait tout à l'heure les grandes fortunes, mais en fait non, ça baisse l'impôt pour les petits ménages les plus modestes et les classes moyennes, et ça les augmente. Il y a Nakok qui dit 8-4 par mois au Brésil, c'est 30K en France. D'accord, ok. Ouais, donc les aisés, quoi. Les très riches. Mais pas les millionnaires, quoi. Ok. Ah, il y a le fou du bus qui nous dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé avec le chat. Il y a Toutoun qui écrit dans le chat, tu joues au sioniste, le Brésil t'appartenait il y a 3000 ans. Chaque mot indépendamment a du sens, quoi. Tu joues, bon, il manque un, c'est pas grave. Sioniste, ça, c'est un mot qui existe. Le Brésil, mais quand tu colles tous les mots, la phrase veut rien dire. Merci Toutoun. C'est tôt pour l'apéro, non? Midi 21. C'est tôt, hein. C'est pas bon pour la santé, ça. Ouais, c'est intéressant, ok. Merci Toutoun, tu régales. Et en fait, c'est bon de rire, hein. C'est prouvé, hein, médicalement, hein. C'est très bon pour la santé. Contrairement à l'alcool, par contre. Et on va finir avec... On a encore du temps, il reste un peu de sujet. Avec l'IA, enfin, l'IA c'est formidable, hein, mais il y a aussi des dangers de l'IA, quoi. Et puis on finira avec le GP Explorer, où tout le monde me parle, et avec un article du Figaro sur comment les marques, les sponsors sont fascinés par le GP Explorer. Ouais, c'est une histoire de gros sous. On va sur l'IA d'abord. 2h35. Sommaire. Comme ça, en replay, vous vous y retrouvez. Et aussi en podcast, point d'exclamation podcast, dans le chat Twitch. Hein, depuis 2 semaines, la revue de presse est en podcast tous les jours à partir de 15-16 heures. Comme ça, vous pouvez m'écouter au travail, dans les transports, en courant, voilà. Dans toute activité de la vie quotidienne. Dans toute activité, je ne veux pas savoir. Mais toute activité. Sommaire. Bah, je vous ai enlevé le sommaire, moi, sur TikTok. Ça va pas du tout. Alors, je vous mets la petite flèche sur IA, les dangers. Mais précisément, les dangers qu'on va évoquer, c'est les deepfakes et la décarbonation également. Let's go. Alors, la première info, c'est Sora. Sora V2. OpenAI ouvre grand la porte à la génération des deepfakes. Son application Sora, donc je crois le chat m'a dit tout à l'heure que c'était la deuxième version, Sora 2, permet de générer des vidéos au réalisme bluffant, mais aussi d'insérer des personnes réelles. On essaiera d'aller voir peut-être une vidéo. On m'a dit qu'il y a une vidéo de présentation de Sora, c'est King Julian qui m'en parle. Un saut de géant vers le réalisme, explique fièrement un ingénieur de OpenAI dans la vidéo de présentation de Sora, la nouvelle application mobile présentée mercredi. S'appuyant sur Sora 2, le tout dernier modèle de génération de vidéos de la société mère de ChatGPT, cette plateforme permet de générer des vidéos par IA d'un réalisme saisissant et d'y intégrer du son, des dialogues synchronisés, le tout à partir d'un simple prompt en langage naturel.
Waouh, waouh, waouh.
Oui, les prononciations OpenAI et tout ça, on s'en balèque. En vrai, hein. On prononce comme on veut à la française. L'important, c'est de savoir de quoi on parle. Okay. Vous avez compris que OpenAI, dans ma bouche, c'est OpenAI. Une autre fonctionnalité de Sora permet aussi d'insérer avec son consentement... D'insérer une personne ? Ah oui ! D'insérer une personne réelle dans n'importe quelle situation pour créer une vidéo à partager ensuite entre amis. Je lis la phrase qui est dingue. Une fonctionnalité de Sora permet d'insérer avec son consentement, c'est ça le problème, une personne réelle dans n'importe quelle situation pour créer une vidéo à partager ensuite entre amis. Ouais, ou sur les réseaux, quoi. Hein. Comme le dit Alex Yamax, on va nous faire dire et faire n'importe quoi. Velvet, Ruzelka, juste au-dessus, la porte ouverte à toutes les dérives. Ouais. La porte ouverte à toutes les fenêtres, ai-je envie de dire. Cette application se veut penser comme une forme de réseau social également, fonctionnant pour l'instant uniquement sur invitation aux States et au Canada. Les contenus créés, appelés Cameo, peuvent aussi s'exporter sur TikTok ou YouTube. On va se régaler. Merci Sukatsi. Sukatsi. Pour OpenAI, cette application est synonyme de créativité augmentée. Pour beaucoup d'entre nous, ça ressemble à un moment ChatGPT pour la créativité. C'est amusant et nouveau. Hein. Il y a quelque chose de formidable dans le fait de passer très facilement et rapidement de l'idée au résultat et dans la nouvelle dynamique sociale qui en découle. Se félicite le PDG Sam Altman. De fait, les utilisateurs peuvent générer de courtes séquences vidéo. Ah, c'est chez moi le WhatsApp. Qui me parle ? Qui m'écrit ? Ok, super. Je vais fermer parce que tout à l'heure, je vais vous lire tous mes messages sur WhatsApp, notamment pour 2027. Dans sa dernière version, le modèle Sora 2 comprend mieux les interactions dans le monde physique. Par exemple, savoir qu'un ballon de basket rebondit lorsqu'il touche le sol après un panier. C'est de plus en plus réaliste, quoi. Le contrôle du mouvement, des expressions du visage est bien meilleur. Ce qui donne un niveau d'expressivité et de réalisme d'ensemble qui n'avait pas encore été atteint dans les générations précédentes, quoi. Mais ce fun a un versant sombre. Et ces caméos suscitent déjà un vif débat, que je vois dans le chat ici, sur les risques provoqués par cette porte grande ouverte, salut Garus, à la diffusion de deepfakes si convaincants. Bien au-delà des craintes d'un déversement de slop AI, soulevé par la présentation du nouvel outil Vibes de Meta, la possibilité d'intégrer des personnes réelles avec des dialogues synchronisés dans des contextes fictifs multiplie les risques de désinformation, de manipulation ou de possibilité de porter atteinte à la réputation d'une personne. Dans la note de blog présentant Sora, OpenAI reconnaît elle-même que cette application aborde de nombreux thèmes liés à la sécurité, tels que le consentement de l'utilisation de l'image, la provenance, la création, la prévention de la création de contenu préjudiciable. Donc même eux, ils disent « Ouais, ouais, c'est vrai que ça va être d'une dinguerie. Voilà. » Renvoyant à une autre note sur les problématiques spécifiques de sécurité. Oh, mais on vous en parlera plus tard, nous dit le truc. Alors, OpenAI a bien posé comme condition essentielle à la création de ces caméos le consentement explicite de la personne dont l'image sera manipulée. Donc, tout va bien. Non, pas du tout. Les utilisateurs pourront accepter ou refuser que leurs amis, voire des inconnus, utilisent leur visage dans des vidéos deepfake. Voilà. Problème, que se passera-t-il si quelqu'un crée un faux compte, puis autorise son exploitation pour générer des deepfakes? L'article est passionnant. Waouh. Bien. Bon, je vous invite à le lire parce que je ne vous lis pas tout. Il est page 27 dans les échos aujourd'hui. J'ai rien trouvé la vidéo de présentation de... Bon, l'article nous dit qu'il y a une vidéo de présentation de Sora 2. On va essayer de la trouver vite fait. YouTube. Sora 2, quoi. Vite fait, hein. Sora 2. Sora 2. Sora 2 trailer. Sora 2 trailer, très bien. V6 Sora 2, OpenAI. Bon, ben, on l'a trouvé. Ok, je vous mets ça. Je vous mets ça. Sur Twitch et sur TikTok. Donc je vous enlève ça et je vous mets ça. Voilà. Hop, c'est ça.
Tiens, cette machine a l'air vraiment pas mal. Par contre, elle est pas du tout dans mon budget.
C'est incroyable la qualité. Mais c'est fou. On dirait vraiment une vraie personne. Et c'est on dirait une vraie machine à café.
Plus vapeur pour mon cappuccino. Ça serait cool, non? Ou est-ce qu'une carafe à lait, ça serait pas...
C'est incroyable.
Plus pratique. Non, il y a celle-là aussi. Ah oui, elle propose plein de recettes. Et au niveau du bruit.
Oui, je sais, c'est la pub. Il est bon de rire. Mais non, mais ça fait au moins 5 minutes qu'on n'a pas eu une dinguerie dans le chat. C'est ça? C'est ça, Sora 2, c'est du patinage? Ok, let's go. On regarde?
Ready when you are. 3, 2, 1, go! Oh, dude, you alright?
I'm good.
Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel dans la vidéo qu'on vient de voir. C'est un truc que je fais sans arrêt, moi, quand je suis sur une planche. Bon, je vois pas en quoi on a besoin d'une AI pour faire ce genre de petits sauts périlleux. Ça aussi, je le fais. C'est tout. Bon, ça va. Bon, ça va. Si c'est que juste des chiens qui mangent des balles de tennis et des gens qui font du cheval comme ça, Jean-Claude Van Damme le fait très bien, ça. C'est vrai. Non, c'est vrai que quelqu'un me disait, tu vas voir, la présentation, elle est folle. Bon. Non, ce qui est inquiétant, c'est ce que les gens vont faire, bien sûr. C'est quoi, alors, c'est quoi le slope? Asmode me dit, super, encore plus de AI slope. Je l'ai vu dans l'article, mais c'est quoi le slope? C'est quoi? C'est les vidéos sans queue ni tête, qui n'ont aucun intérêt, c'est ça? C'est un peu de cheapos? C'est un peu l'idée? C'est ça? C'est de la daube inutile? AI slope, pente glissante avec l'IA, sujet à outil. C'est quoi? Média de mauvaise qualité? Slope, truc sans intérêt généré par IA. Ok, d'accord. Ok. Ok. Alors, il faut regarder la vidéo avec Sam Altman, mais elle dure 20 minutes, elle est beaucoup plus impressionnante, me dit King Julien. Ok. Bon, intéressant. Donc, inquiétude. Ouais, Blix me signale aussi cette vidéo plus longue que le PDG. Inquiétude donc en fait, le fait que le grand public va pouvoir utiliser Sora 2 et puis ce qui va arriver encore après. Et alors, même si c'est très amusant, ça pose plein de questions, notamment sur le détournement d'image, sur la désinformation. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, l'IA nous met le monde par ailleurs en garde. L'IA, l'explosion de l'IA est incompatible avec la décarbonation, voilà, par la quantité d'énergie qu'il va falloir pour répondre aux demandes des utilisateurs. C'est l'édito du monde d'aujourd'hui. Parmi les questions que pose l'émergence de l'IA dans nos sociétés, celle de sa compatibilité avec la décarbonation devrait être, nous dit le Monde, une préoccupation majeure. Pendant des siècles, l'humanité ne s'est guère souciée de l'impact de l'innovation technologique sur son environnement. La contribution à la croissance économique, à la prospérité, suffisait à placer au second plan la finitude des ressources et les externalités potentielles sur l'humain et la nature. Bon, on est en train un peu de changer de logiciel là-dessus, heureusement, même si... Excusez-moi. Je lis un message. Même si, effectivement, on est loin du compte, vous le savez, en matière de lutte contre les changements climatiques. L'IA, annoncée comme une révolution majeure, est en passe d'aggraver ses erreurs du passé. La rapidité avec laquelle se diffuse cette technologie, la multiplication de ses usages, surtout les quantités astronomiques d'énergie nécessaires à son fonctionnement, impose une réflexion urgente sur la durabilité de son expansion. Dans un rapport publié mercredi, le Shift Project, un groupe de réflexion présidé par Jean-Marc Jancovici, dresse un constat alarmant. Selon ses calculs, la consommation électrique des centres de données, ces gigantesques hangars où tournent en permanence des centaines de serveurs informatiques, devrait tripler d'ici à 2030. L'IA représenterait entre le tiers et la moitié de ce total, contre seulement 15% aujourd'hui. Cette trajectoire, nous dit Le Monde, n'est pas soutenable. La frénésie d'investissement à travers le monde pour installer de nouvelles capacités de stockage va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, au moment même où les autres secteurs de l'économie tentent de les réduire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Cette incongruité climatique s'explique par le fait que, notamment aux États-Unis, l'électricité soit fabriquée pour l'essentiel à partir d'énergies fossiles, émettrices de CO2. Le coup d'arrêt porté par Trump pour développer de nouveaux réacteurs nucléaires laisse peu d'espoir à moyen terme de réduire l'empreinte carbone des géants du secteur. Et quand l'électricité est décarbonée, nucléaire en France, éolien, solaire, hydraulique, comme dans le cas de la France, dit Le Monde, l'explosion de la consommation due à l'IA risque de donner lieu à des conflits d'usage au détriment d'autres secteurs, hein, qui n'ont d'autre choix que l'électrification pour réduire leurs émissions de CO2. Si les centres de données captent l'essentiel de la croissance d'une production électrique idéalement verte, qui aura du mal à suivre la demande, les prix augmenteront et la trajectoire de décarbonation pourrait alors être remise en cause. L'air, en général, c'est 9h, 9h30 le matin. Le technosolutionnisme, consistant à faire croire que l'IA permettra d'obtenir suffisamment de gains énergétiques pour rendre ce processus durable, est un leurre estime Le Monde, l'augmentation exponentielle des usages est telle qu'il est peu probable qu'elle soit compensée par l'amélioration et l'efficacité grâce à l'innovation. Le Shift Project a le mérite de poser le débat sur la place de l'IA dans la décarbonation. Il propose notamment de fixer des plafonds de consommation d'électricité, d'étudier les usages au cas par cas en privilégiant ceux qui sont prioritaires. Cette demande de régulation est souhaitable sur le plan écologique. Elle risque toutefois de se heurter à une logique économique, sous forme d'une compétition sans foi ni loi, pour attirer les investissements dans une technologie qui s'annonce vitale en matière de souveraineté. Il est malheureusement peu probable que Donald Trump et Xi Jinping soient sensibles à cet accord, à cet appel, à la sobriété. C'est hyper intéressant. Oui, je sais, j'ai un rendez-vous à... Non, en fait, c'est... il était à 12h30, mais je l'ai repoussé à 12h45 pour pouvoir rester un petit peu avec vous. Pas mal, hein ? Merci, Babadit. Je te remercie, c'est Yaroki, je suis pas sûr. Merci, Garus. Ça a sonné ? Non, c'est bon. Ça, non, jusqu'à 45. J'ai repoussé pour rester avec vous. Voilà. Les amis, j'accélère un petit peu parce qu'à 45, je suis en Teams avec un ami qui s'appelle Pierre. Pour parler d'un projet. Et là, je vous emmène au GP. Enfin, je vous emmène pas au GP parce que j'y vais pas, mais on parle de GP Explorer. Sommaire. Ah, on est sur quelle heure là? On est sur du 2h50. C'est la fin de cette revue de presse. GP Explorer, la hype. Point d'interrogation. Est-ce que c'est la hype? Est-ce que vous avez la hype pour le GP Explorer? Peut-être que vous allez y aller. Moi, je suis allé à une édition, je sais plus, la 2, je crois. Pas en participant, hein, bien sûr, mais j'avais été invité à un truc là-bas. Moi, j'avais vu un petit peu. C'était, l'ambiance était sympa, était bon enfant, en vrai. Mais après, moi, j'ai été sport mécanique à une époque. Je regardais beaucoup la Formule 1 il y a très longtemps, plus maintenant. Mais là, j'avoue que même si je suis invité, alors pas à rouler, hein, évidemment, mais même si j'étais invité à aller sur place pour des trucs, je n'irais pas. D'abord parce que je suis occupé ce week-end, mais aussi parce que je suis pas plus hypé que ça. Voilà. Mais après, j'ai pas trop suivi. Peut-être qu'en fait, c'est une dinguerie et que ce qui est sûr, c'est que ça va casser des records d'audience en vrai. Hein. Voilà. Avant de lire ce papier du Figaro sur le fait que les sponsors sont fous de ce truc, voilà, votre avis là-dessus? Certains me parlent beaucoup de France Télévisions, de France 2 qui a racheté les droits en se demandant qu'est-ce que ça va donner, effectivement. Je regarderai un petit peu, je pense, me dit Julien. Il n'y a pas Sylvain, donc pas envie de regarder, me dit Alex. J'avais regardé le 1, pas le 2. Je pense cette année un petit peu Phoenix. Hype, car c'est nos streamers FR. Ouais, ça, j'avoue, ça. Je sais pas, il y a plein de gens comme Maxime, comme... comment il s'appelle, que j'aime bien aussi. Non, bref, il y a plein de gens que j'aime bien, j'espère qu'ils vont passer un bon week-end, quoi. Peu hypé, mais je regarderai peut-être la course, me dit Fox. Ça ne m'intéresse pas, me dit RDPlan. Moins hype, me dit Chucky Max. Ah oui, je t'ai pas mis la petite flèche, t'as raison. Tu as raison, mon ami. La petite flèche. Pourtant, le streamer n'en est pas une lui-même. Hein. Voilà, appliqué. Voilà. C'est quand? C'est ce week-end. Trop de pognon dépensé pour polluer, me dit Indiana. J'adore, c'est quand même incroyable ce qu'a réussi à organiser, ce qu'ont réussi à organiser les streamers français. Dijvan, t'as raison, en vrai. Ça, c'est intéressant. Une masterclass de marketing, me dit Kirotiste. C'est un event comme un autre, c'est le dernier. Voilà, ce fut une belle histoire, c'est bien que ça se termine, me dit Simba, parce que c'est vrai que normalement c'est le dernier GP. Meilleure vitrine pour le Twitch FR, me dit Tig. Hype, parce que c'est nos streamers, me dit Edo. Voilà, mais derrière, c'est une usine à cash. Bah, c'est ce que dit le Figaro. Ouais. En vrai, c'est une belle évolution du Twitch game, me dit Alix. C'est quoi le GP Explorer? C'est une compétition de monoplace de Formule 4, si je dis pas de bêtises, organisée par Squeezie avec des créateurs de contenu et créatrices de contenu qui participent à cette compétition. Sur quel circuit? J'ai oublié. C'est Le Mans, je sais plus. Pendant 3 jours, c'est ça? C'est Le Mans? Je regardais un petit peu, je pense, me dit Squally. Il y a un sondage. Est-ce que vous êtes hyper hype par le GP Explorer? Oui, 30%. Non, 62%. Pas d'avis, 9%. Merci pour le sondage. Il y a un sondage, vous pouvez voter là, il reste quelques secondes. Ça réunit beaucoup de streamers, youtubeurs français sur place, me dit Matt Tracker. C'est au Mans, c'est ça, hein? Never said pareil, puis malheureusement, c'est pas une course. Chaque année, c'est drapeau jaune pendant presque 15 tours. Alors, lisons l'article du Figaro qui dit que, en tout cas, commercialement, c'est un gros succès. L'ultime édition de GP Explorer fait saliver les annonceurs. La course de Formule 4, organisée par Squeezie, est diffusée sur France 2. Et ça, c'est une nouveauté, parrainée par une kyrielle de marque. Alors, la POV des femmes, c'est uniquement sur France 2, ce ne sera pas sur Twitch. C'est un rendez-vous qui aura tenu en haleine Internet pendant des mois, le GP Explorer, la grande course de Formule 4 organisée par le YouTuber Squeezie et son agence artistique Bump, fait son grand retour pour une troisième et a priori ultime édition. Donc, c'est de vendredi à dimanche au Mans. J'ai vu quelques chiffres, me dit Chacun, la billetterie va rapporter 13 millions pour les 3 jours, top con, puisse avoir de si gros projets sur Twitch. En l'espace de 2 éditions seulement, première en 2022, la seconde l'an prochain, l'an dernier, pas la seconde, la deuxième du coup. Cette compétition sportive qui voit s'affronter une dizaine d'influenceurs et de rappeurs, il y a des rappeurs ? Je connais rien. Sur le mythique circuit Bugatti est devenu un rendez-vous incontournable de la Gen Z. Bon, ça, il y en a marre de voir toujours la Gen Z associée à Twitch. À un moment, c'est un peu impensif, non ? Diffusée en direct sur la plateforme Twitch, la course avait rassemblé 1,3 million de spectateurs en simultané il y a 2 ans, ce qui est énorme. C'est énorme. Soit autant que les plus grands événements de F1, catégorie reine du sport auto, qui rassemblent traditionnellement autour du million de téléspectateurs. C'est énorme. Mes enfants sont partis ce matin de Bordeaux pour 3 jours au Mans, me dit Sophie. C'est trop mignon. Il y a PLK, SCH, c'est ça ? Si, c'est sur Twitch. Non. Quand je vous dis, c'est juste les POV. En fait, la révolution cette année, c'est que vous allez pouvoir regarder la course de l'intérieur en choisissant l'intérieur de la voiture que vous souhaitez. Mais ça, c'est pas possible sur Twitch où vous avez un seul canal. La chaîne de Squeezie. Par contre, sur France.tv, je crois que vous pourrez choisir entre toutes les POV. C'est ça, en fait, ce que propose France Télévisions. Voilà. C'est ça qui est... Donc vous ne l'aurez pas sur Twitch. Bah, l'idée, c'est de vous faire aller sur France 2, quoi. Enfin, sur France.tv. C'est pour ça qu'ils ont acheté les droits. Tous les ingrédients sont réunis pour que cette dernière édition attire encore plus de spectateurs que les précédentes. Cette fois, GP Explorer s'étendra sur tout un week-end, sera ponctué de concerts. Près de 200 000 personnes sont attendues sur place à l'ouverture de la billetterie en juin. Les passes d'entrée s'est écoulées en moins de 2 heures. C'est devenu un festival, plus qu'une compétition sportive. Note un communicant étonné par l'ampleur du rendez-vous. Quant à la course elle-même, elle réunira le gratin du web et du rap français, Gotaga, Mister V, SCH, PLK, ainsi que des influenceurs espagnols et américains. Pour la première fois de sa courte histoire, GP Explorer sera diffusé à la fois sur Twitch et à la télévision. C'est France Télévisions qui en a obtenu les droits de diffusion. Les essais seront diffusés sur sa plateforme France.tv, les qualifications sur France 4, la course finale et son podium sur France 2. Voilà. Dans le cadre de ce partenariat, France Télévisions sera le seul à filmer en permanence les 24 pilotes dans leur voiture avec des caméras embarquées. Donc vous vérifierez ça. Mais on m'a dit que sur France.tv, a priori, vous pourrez choisir la caméra. Ça, le Figaro ne le redit pas. Donc moi, j'avais entendu cette info. Alors que dit France Télévisions ? Ce partenariat correspond à notre volonté de chercher les programmes qui s'adresse aux moins de 30 ans, d'associer le monde de la télé à celui du monde des créateurs de contenu, dit Alexandre Dureux, qui est directeur délégué des programmes de France Télévisions en charge des contenus jeunes publics. Il est midi 45, donc je vais dire à Pierre que j'arrive. J'arrive. Où est-ce que c'est ? J'arrive. Je finis juste l'article. Je sais, je suis en retard, je sais, je suis en retard. Pierre, si tu me regardes, je suis en retard. En diffusion de la compétition sous sa chaîne phare en Access Prime Time, donc puisqu'en fait la course sera sur France 2 quand même, la course finale sur France 2 quand même. Hein. Ouais. Le groupe public et les organisateurs espèrent toucher un public plus large que celui qui a l'habitude de se rendre sur les plateformes de streaming. Le but, c'est de se faire connaître, c'est de faire connaître ces formats nés sur le digital. Pardon. On va dire numérique. Un plus grand public et peut-être plus familial, indique Alexandre Dureux, qui est donc le responsable du digital France Télévisions. Alors, combien ça coûte ? On ne sait pas. Si les montants mis sur la table restent confidentiels, ce dernier assure que l'investissement de la télévision publique sur cet événement, qui comprend à la fois des coûts d'acquisition et des coûts de production, est assez loin des grands événements sportifs comme les JO ou le rugby, où les chaînes sont en très forte concurrence. Donc, on ne sait pas combien France Télévisions a déboursé. On ne sait pas combien ça coûte, mais on sait que ça coûte moins que les Jeux Olympiques. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah, j'ai pas. Voilà. Attendez, j'ai lu un message. Alors, et comme d'habitude, les femmes qui sont dans ce genre d'événements sont harcelées principalement par des hommes, une honte me diabolise. Moi, j'ai pas vu tous les. Moi, je vous avoue que je suis assez peu le GP Explorer, mais si le GP Explorer a une nouvelle fois l'occasion de s'en prendre aux créatrices de contenu et aux femmes d'une façon générale, évidemment, c'est juste. Quel est le mot ? C'est honteux, évidemment. Il y a Petit Pincho qui me dit Samuel, un petit mot pour défendre Léa et lui face aux haters de son chat, de ton chat. Alors, j'ai rien vu dans le chat, pour le coup, j'ai raté des trucs. Et je ne sais pas qui est Léa et lui. Mais en tout cas, si des gens ici ou ailleurs s'en prennent aux créatrices de contenu avec quels arguments, sans doute des arguments de débiles, ils sont condamnés ici fermement. D'autant qu'il y a des filles qui peuvent faire des sacrés chronos cette année, je crois. Déplorable, ouais, honteux, ouais. D'ailleurs, les modos, évidemment, si vous voyez ce type de propos ici sur ce chat, on supprime pas le message, on met pas des petits TO, c'est ban dev direct, évidemment, mais ça, vous le savez. Ouais, Catsup, notamment, elle peut faire un truc incroyable. Ça dégage direct. Hein ? C'est vrai que l'article ne cite que les créateurs de contenu hommes, tu as raison, Registrim. Donc voilà, on sait pas combien ça coûte. Voilà. Les marques extrêmement séduites, voilà, elles se sont associées en masse à cette édition, plusieurs dizaines à sponsoriser de près ou de loin la course, voilà, à financer l'événement dont le coût atteindra plusieurs millions d'euros. 12 marques sont partenaires titres, c'est-à-dire qu'elles donnent le nom aux écuries. Voilà. Samsung est le partenaire premium de GP Explorer. Netflix, qui n'est pas diffuseur, parce que c'est donc France Télévisions. Voilà, merci pour les bandes def. Est le sponsor exclusif de l'écurie de Squeezie. C'est intéressant, ça. En vrai, c'est cool que France Télévisions ait fait ce move. France Télévisions, à une époque, ils avaient le projet de développer énormément leur chaîne Twitch. Moi, je me rappelle de discussions que j'avais eues avec des responsables de France Télévisions. Le projet, c'était de faire de la chaîne Twitch de France Télévisions une chaîne avec plein de programmes différents. Ils l'ont pas fait. Mais ils s'intéressent toujours à cet univers, la preuve, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que les marques, elles sont tristes. Parce qu'a priori, c'est le dernier GP Explorer. Pour les heureux élus, pouvoir afficher son logo lors de ce grand rendez-vous revient à toucher le gros lot. Voilà. Si mon client a souhaité en être, c'est que parce qu'on arrive à avoir autant d'impact avec un prix moins qu'une semaine de pub à la télé. GP Explorer permet à une marque de créer une interaction avec sa cible. Cela ne remplace pas les investissements médias traditionnels, mais ça les complète. Voilà. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Squeezie a d'ores et déjà annoncé que ce GP Explorer serait le tout dernier tour de piste de l'événement. Hein, c'est toute la fraîcheur, le caractère possiblement déroutant de cette nouvelle économie, pardon, digitale, dit la personne, qui bouge beaucoup et ne veut pas se lasser ni s'institutionnaliser. Cette décision ne manquera pas de frustrer les marques et les médias qui avaient à peine commencé à faire de GP Explorer leur nouveau terrain de jeu. Voilà. Bon, en gros, l'article nous dit que à peine ils avaient compris qu'il fallait aller au GP que le truc s'arrête, quoi. Salut Sportigo, merci pour ton message. Je vous lis et puis je vais à mon rendez-vous. Merci en tout cas, c'était top ce matin. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'était top de discuter de l'actualité avec vous. Merci Desterminator. Merci Gibus. Ouais. Oui, donc, oui, parmi les créatrices de contenu dont on attend une perf sympa, ça peut être Anna Honer aussi, ça peut être Catsup aussi. Catsup, la goat. Effectivement. Alors, Squeezie s'en était déjà expliqué, me dit Ditch22, à propos du fait que c'est la dernière édition. Ça bouffe beaucoup trop de temps sur son année, ça coûte une blinde, je le comprends. Il doit rentrer dans ses fonds quand même, mais bon. Vous m'avez presque donné envie de regarder. Mais bon, ce week-end, je vais surtout passer du temps avec la famille et puis streamer un petit peu de mon côté parce que ces dernières semaines, j'ai pas pu beaucoup streamer parce que du jeu vidéo, parce que j'ai fait beaucoup de revues de presse, parce que maintenant c'est le rendez-vous tous les matins. J'ai fait beaucoup de revues de presse, voilà. Je vais vous montrer un dernier truc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer, je sais plus. Et puis beaucoup de vidéos aussi. Donc voilà. Donc je vais essayer de me rattraper. Gaming cet après-midi. A priori sur Battlefield ou sur Black Ops 7. Gaming ce soir. Gaming samedi soir pour le plaisir du Valo. Voilà. Je vous mets aussi. Ça c'est très important. C'est mon plus gros stream de la rentrée. Soyez là, s'il vous plaît. C'est mon GP Explorer à moi. Alors, ça fait moins de bruit, il y a moins de gens. Mais mardi 7 octobre, 20h, voilà, mon plus gros stream de la rentrée. Un jeu, le bingo, une nouvelle mécanique. Un jeu qu'on a inventé juste pour ce one-shot. C'est dans une salle parisienne, c'est dans un cinéma. Il y aura du public, il y aura entre 50 et 100 personnes de la commu qui sont là. Il y a trois super invités. Il y a Jiraya, il y a Elidia, il y a DFG. Donc ça part du bingo, voilà. Mais c'est, vous voyez, chaque boule qu'on tire, on va être à fond sur les boules mardi soir à 20h. Chaque boule qu'on tire va amener à une question, à un mini-jeu. On va rigoler, ça va être extraordinaire. Et vous voyez que tous les styles capillaires sont accueillis dans cette émission. Donc ça c'est sympa. Faites-moi plaisir, venez mardi soir parce que c'est vraiment mon plus gros projet de cette rentrée. Ça c'est donc pour mardi soir. Et puis n'oubliez pas également dimanche soir, il est où? Il est là. Dimanche soir, hop, je vous mets le visuel. Le Samplay, comme chaque semaine, le dimanche. Oui, on sera à fond sur les boules le mardi. Image, je vous mets la bonne sur TikTok aussi. Toc. Voilà. Le Samplay avec Cyprien sur Balatro. Hein, ce jeu de cartes qui a eu beaucoup de succès à un moment, voilà. La drogue Balatro, comme disent certains, voilà. et j'ai vu les réactions sur les réseaux sur le jeu, voilà. Et je pense que je vais me régaler. Ça c'est dimanche soir 20h. Je pourrais vous annoncer même l'invité de la semaine suivante, mais non, on va pas tout vous dire. Donc deux jolis rendez-vous, voilà. Le sommaire, je peux l'enlever. Deux jolis rendez-vous, voilà. Dimanche soir, mardi soir, et puis cet après-midi du gaming, et puis ce soir du gaming, et puis samedi soir aussi du gaming. Et merci pour ce matin. Et n'oubliez pas, la revue de presse c'est tous les matins, du lundi au vendredi, 9h midi ou 9h30, midi 30. Je vous attends, c'est un plaisir de discuter de l'actu avec vous. Amis TikTok, je vous quitte, je vous dis au revoir, je vous souhaite une belle fin de semaine et un beau week-end, et on va faire un raid sur Twitch. À bientôt les amis. N'oubliez pas, tout ça c'est aussi en podcast désormais, en podcast audio. Ciao ciao. Ami Twitch, je me dépêche, je suis super en retard à mon rendez-vous. Voilà, on va quitter en live, on va faire un petit raid. Puis on se retrouve dans une heure et demie, je relance du gaming tout à l'heure. C'est week-end de stream, là. Oui. Ah, tiens, oui. Ok, excusez-moi, je parle tout seul. Oh! Bah oui. une amie que j'aime beaucoup, que je n'ai pas raid depuis longtemps. Une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, qui m'a dit Joe passera peut-être nous voir d'ailleurs mardi au jeu le bingo, voilà, qui est Mademoiselle Sunny, voilà, que j'ai déjà reçue sur la chaîne à une époque, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, je l'aime beaucoup, Mademoiselle Sunny, on la retrouve, c'est une passionnée de théâtre notamment, de création, elle est streameuse mais elle est aussi réalisatrice, elle est juste incroyable. Là elle est sur quoi elle réacte Cauchemar en cuisine. Voilà. Et je me fais malenia sans jamais avoir joué à Elden Ring. Plus Radio Libre Confiance en soi. En soi. Bon, super contenu. Et c'est vrai, je les coach sur Valo il n'y a pas longtemps. C'est parti pour le raid. On va voir Mademoiselle Sony. Vous allez voir qu'elle est super sympa. Et moi, je vous retrouve littéralement dans une heure. Merci pour ce matin, c'était top. Et merci d'être aussi nombreux pour la revue de presse. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai ce truc-là derrière moi. J'avais mon vieux t-shirt d'hier. Pendant tout le stream. C'est mon t-shirt d'hier, ça. Sur la depuis le début. Et personne ne m'a rien dit. Mais le crado, quoi. Non, ils remarquent qu'ils sont, ils sont même pas... Putain. Je suis vraiment un crado. Allez, c'est parti pour le raid. Je vous dis à tout de suite. À tout à l'heure. Merci pour ce matin. Ciao. Oui, je me suis déshabillé hier au studio. Je vais pas tout vous raconter.
Cotiser à l'extrême auprès de cette assurance. Ok, il faudrait que je me renseigne en vrai de vrai. Mais
en un mot, miaou.
Merci énormément pour le raid. Merci beaucoup Samuel pour le raid.